Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, c'est la dernière émission de 2013, après une cinquantaine d'émissions, Silence on Joue, peut-être un peu plus, un peu moins dans ces eaux-là. On arrive au bout de cette année 2013, riche en événements et en sorties diverses. On va en parler et puis voilà, ça va faire le thème de l'émission. Je pense que c'est déjà un thème suffisamment vaste, suffisamment fédérateur pour qu'on arrive à tenir toute une émission. Et j'ai le plaisir, je commence en accueillant 6 de mes chroniqueurs favoris. Il n'en manque qu'un trou, saurez-vous trouver lequel. Kalash de Canard PC, bonjour Kalash.
Bonjour Erwan.
Pipo Mantis de Canard PC, les deux en même temps d'un coup.
Salut Erwan.
Canard PC en force. Clément Apap de Sens Critique, bonjour Clément.
Bonjour.
Patrick Elio de GDLI, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Erwan Iguinen des Inrocks,
bonjour. Et du magazine Games qui est enfin sorti, le numéro 1 qui est magnifique,
Games,
qui est en kiosque.
Ah ouais, avec un triplé Ueda, Blo et...
Il y a Genova Chen, il y a un dossier Ubisoft, il y a du Battlefield, enfin il y a plein de choses. Il y a Stanley Parable, enfin il y a un peu de tout.
Ueda...
Christine Love, enfin c'est magnifique. Enfin,
Ueda, Blo et
Chen. Je suis encore sous le choc moi-même, j'ai du mal à y croire. Mais...
Oui, oui.
C'est en vente libre, 5,90€, ça peut paraître cher, mais c'est un bimestriel, il y a plein de choses. Et ça, parce que faut ramener ça au coût mensuel, c'est moins de 3€ par mois. Donc
c'est bien,
ouais,
c'est bien.
C'est pas mal. Et donc voilà, donc je vous le recommande, et puis c'est pas du tout parce que j'écris dedans.
Du tout. Rien à voir. Et on l'avait promis, et Monsieur Fall de TrickTrack.net en live, en chair et en os et en barbe.
Bonjour mon cher Erwan.
Bonjour Monsieur Fall. Moi, ça va. Et vous-même?
Ça va plutôt pas mal. Je suis un gars simple, donc ça va toujours très bien.
Ah, ça fait plaisir. On commence avec le com des coms de la semaine dernière, où à contrario de cette émission-là, j'étais un peu seul avec mes invités. Mais c'était très bien. Beaucoup de très bons retours sur cette émission, mais 4 commentaires seulement. Donc j'ai choisi le commentaire. Excellente émission, ça donne envie de s'essayer au Game Jam. C'est Power Mugen qui le dit. Voilà, il y a eu... j'ai eu plein de retours, que ce soit sur Twitter. Et c'est vrai que voilà, nos invités n'étaient pas forcément des grands habitués de la radio, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant comme thématique, et au moins on avait parlé de Game Jam et de Ludum Dare et de toutes ces choses qu'on aime bien d'une manière générale. Et en fait, on a passé les news d'intro. En fait, on va faire les news d'intro après le com des com, en même temps c'est pas grave, hein, voilà. Donc on commence avec toi, Clément.
Oui, bonjour Erwan.
Oui, bonjour.
Oui, alors je vais vous parler moi d'une de l'année sur Kickstarter en jeu vidéo. Kickstarter, on commence à connaître puisque
c'était
là
une belle année sur Kickstarter.
Ouais, une belle année sur Kickstarter. On sait pourquoi. mais surtout, ils ont levé cette année quasiment 112 millions de dollars. Et donc, ils viennent de porter à plus de 200 millions de dollars les sommes levées sur Kickstarter pour des projets.
Pour les jeux vidéo.
Pour des projets de jeux vidéo. Donc ce qui est assez énorme, et on commence à voir d'ailleurs les jeux apparaître, il y en a déjà en 2012, hein, des excellents comme FTL, mais là il y en a d'autres qui arrivent, et moi il y en a deux que j'ai financés et qui viennent d'arriver, que j'aime beaucoup. Il y a Westland 2 qui vient d'arriver en bêta, avec déjà quelques heures de jeu. Westland 2, pourquoi il compte beaucoup pour moi? Parce que c'est l'ancêtre slash successeur spirituel de Fallout 1 et 2. Donc c'est un jeu de rôle voilà de ce type-là,
qui était rendu gratuit sur Good Old Games cette semaine, Fallout 1 et 2 et Fallout Tactics.
Ça a explosé les serveurs,
ouais,
je crois.
Ça a explosé les serveurs, j'ai pas réussi à me connecter. Ouais.
Pour des raisons un peu louches en plus, si je me souviens bien. Je crois que c'est ceux qui vont perdre les droits qui l'offrent avant que ça retourne ailleurs.
Quoi. Et surtout, je me demande qu'il ne l'a pas déjà 5 fois en fait.
C'est vrai.
Moi je l'avais en... Monsieur Fall lève la main.
Je l'ai pas moi.
On te l'offrira en boîte.
Non mais moi je l'avais en boîte, mais voilà, je sais pas si c'est j'ai pas vérifié si c'était compatible avec mon PC, enfin voilà.
Ah, bon, ça date un petit peu.
Non mais c'est quand même plus simple, avec Google Games c'est quand même plus simple. Oui. Et donc Westland 2 qui vient d'arriver en bêta, qui est déjà jouable, qui est pas fini, mais c'est vraiment le jeu avec quelques actes du jeu, donc on peut déjà l'acheter un peu cher parce que c'est une alpha backé sur Kickstarter.
Oui, Fargo avait levé beaucoup d'argent, je crois. Il avait fait un très beau Kickstarter.
Ouais. Un beaucoup à plus. D'ailleurs, j'ai les chiffres, si je les retrouve. Il y a 59 titres qui ont 59 projets sur Kickstarter, donc tout cumulé, pas que jeux vidéo, qui ont levé plus d'un million de dollars. Et parmi ceux-ci, il y en a 29 qui sont des jeux vidéo. Donc il y a 29 jeux sur Kickstarter qui ont levé plus d'un million de dollars. Donc c'est vraiment pas mal. Et parmi ceux-là, il y a un autre jeu qui vient d'arriver en alpha, qui est Elite Dangerous.
Oh, il y a des étoiles qui sortent de tes yeux quand tu dis ce nom.
Et donc là, il vient d'arriver en alpha, mais c'est intéressant parce que, en tout cas pour moi, qui suis joueur PC old school et qui adore ce genre de jeu, c'est quand même deux types de jeux, Westland et Elite Dangerous. Donc c'est un space opéra spatial, on peut faire un peu tout ce qu'on veut.
Porté par Braben aussi.
Braben.
Oui, donc ce sont les deux créateurs originaux. Ça, c'est important. Ouais,
pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, via Kickstarter, via le financement par la foule, on arrive à retrouver des jeux emblématiques du jeu en général, pas que du jeu PC, et auxquels on peut enfin jouer et qui n'avaient pas été supportés par les éditeurs ces dernières années, donc des genres qui avaient disparu et qui sont ressuscités grâce à nous. Voilà, donc j'ai envie de dire merci à tout le monde.
Merci Clément. Alors.
C'est d'autant plus agréable de voir ça à la lumière de ce qui est en train de devenir Frontier, à savoir donc la boîte de David Braben qui a quand même fait depuis Kinectimals, Disneyland Kinect Adventures et actuellement The Tycoon, qui sont d'ailleurs pas des jeux dégueulasses, hein, mais on est loin d'Elite je sais plus ce qu'ils avaient comme projet pendant un moment aussi, The Outsider.
Elite
on est loin de tout
sur
ça,
Amstrad, je me rappelle, c'était hallucinant quoi, ce jeu quand il est arrivé, c'était monstrueux, on n'avait jamais vu un monde ouvert comme ça, c'était hallucinant. Sur
l'univers qui est en procédural qui tient sur une disquette,
jamais vu.
Mais c'est encore du procédural. Et pour finir, enfin j'ai enfin parlé aussi de Dungeon of the Endless, qui est un roguelike fait par les Français.
On en a parlé la semaine dernière parce que nous avions quelqu'un d'Amplitude.
Et il vient de sortir, il est disponible en alpha. Et c'est une tendance vraiment de 2013 aussi de sortir des jeux, soit financés par Kickstarter, mais de les sortir ce qu'on appelle en alpha, c'est-à-dire en pré-accès, auquel on peut payer pour y avoir accès, mais le jeu n'est pas fini. Donc c'est à double tranchant, parce qu'il y en a plein qui achètent et qui sont un peu déçus aussi de ce qu'ils trouvent. En tout cas, moi je trouve ça assez génial, en fait.
Mais on peut établir quand même une règle que le pré-accès, ça peut être bien, et la pré-commande, c'est toujours mal. C'est ça?
Oui, voilà. Ceci dit, sur Kickstarter, c'est une pré-commande qu'on fait aussi.
Et Early Access, pareil, enfin... Finalement, je trouve ça un peu facile de dire la précommande, oulala, les salauds, et l'early access, c'est vachement bien. L'early access, c'est tout autant une arnaque que la précommande, parce que finalement, t'arrives sur un jeu complètement buggé, machin. Mais enfin, après, on est des fanboys tous de certains trucs, et t'as backé Elite, je pourrais très très bien backer d'autres trucs dont je suis fanboy absolu, donc je peux pas jeter la pierre. Quoi.
Voilà. Non, surtout que c'est pas tous buggés. Hein. Voilà, c'est juste. Après, c'est limité dans le gameplay, c'est-à-dire que dans Elite, par exemple, on peut que jouer au combat. Je vais m'arrêter parce que ça.
Ta news d'intro.
Elle est partie.
Bon, bah, c'est fini. Voilà. Sur cette semaine, on se retrouve en 2014. Patrick.
Oui, alors vu qu'on parle de nos tops de cette année, moi j'ai trouvé des news en rapport avec deux de mes jeux marquants de cette année. On va commencer avec Telltale Games, vous savez, le fameux studio qui est un petit peu aujourd'hui le studio qui porte la flamme de LucasArts, hein, de la grande époque de ces jeux d'aventure mythiques. Voilà, donc on a aujourd'hui la sortie, je crois que c'est aujourd'hui, ou enfin c'est imminent, de Walking Dead saison 2. Alors on va pas resituer Walking Dead, moi c'est un de mes jeux. Alors j'aurais bien triché, parce que je crois qu'il est sorti fin 2012, hein, donc il rentre pas dans notre
fin novembre 2012.
Voilà, moi j'ai découvert un peu, j'avoue que je l'ai fait sur le tard, je l'ai fait cette année, et pour moi c'est vraiment un de ces jeux qui m'ont marqué.
Et c'était donc, la première émission de 2013, on en a parlé.
Donc voilà, il chevauche un petit peu. Allez, on va dire que c'est un top
de 2013.
Ça va être
pareil avec celui-là, hein, comme celui-là sort en décembre, oui, c'est vrai, ça va être le même problème.
Il commence là en fin d'année, donc le premier épisode doit être arrivé là au moment où vous m'entendez par réception internet, ça doit être en ligne. Le premier épisode, on rappelle que tel, ce sont des jeux par épisode, on a donc une toute première partie de la saison 2 qui arrive. Alors le titre de ce premier épisode, c'est All That Remains, tout ce qui reste. Bon, on va pas spoiler sur la fin de.
J'ai tellement peur de le lancer.
On est tous à voilà parce
que
c'est
hyper fébrile en fait.
C'est un monument du jeu d'aventure. Donc en tout cas voilà, on a ce premier épisode dès maintenant. On a aussi appris que le studio donc Telltale avait signé avec HBO pour Game of Thrones. Donc ils ont signé la licence pour développer plusieurs jeux basés sur cette série télé. Moi, je ne connais pas très bien la série télé, je ne vous cache pas, mais visiblement, il y a quand même plutôt une tendance positive. Et c'est des gens plutôt malins, tel. Donc, je pense qu'ils vont sûrement savoir adapter ça. Et je crois qu'ils ont déjà annoncé que ce serait sous forme épisodique. Donc, avec ce qu'ils savent très bien faire, et on va suivre ça de près.
Il y a aussi des rumeurs d'un jeu de Joséphine Ange Gardien, je crois. Ça n'a pas été confirmé encore, parce qu'ils sont sur les séries comme ça, et ça.
Ils sont
sur un truc.
Si les gens de Telltale nous écoutent, confirmez-nous ça au plus vite, parce que ça pourrait être un scoop assez effrayant.
En revanche, ils ont aussi annoncé Tales of the Borderlands, qui sera un jeu Telltale d'aventure dans l'univers de Borderlands, en fait.
Ah ouais, donc ils multiplient les crossovers comme
et ça
avec les univers.
C'est très cool,
intéressant, ouais.
Mais en fait, c'est ça, ils sont arrivés, ils sont pratiquement les seuls à savoir raconter des histoires comme ils le font actuellement. Enfin,
mais en s'écartant en même temps, ce qui est fort, c'est qu'ils savent s'approprier une licence, mais en s'écarter assez pour vraiment créer une expérience à part.
Ça va être la grosse expérience sur Game of Thrones, notamment. Ouais. Est-ce qu'ils vont nous raconter la série que tout le monde connaît, ceux qui ont lu le livre, puis la série commencent à connaître, et où est-ce qu'ils vont raconter une histoire qui va être dans l'univers de George R. R. Martin, mais qui va arriver au niveau de George R. R. Martin. C'est ce qu'ils ont réussi à faire sur The Walking Dead.
Alors moi, j'ai toujours Jurassic Park à faire de chez eux, que j'ai jamais encore lancé. Je sais pas ce que ça donnait.
C'était vraiment une catastrophe.
J'avais lu des choses assez.
Non, mais il y a avant Walking Dead et après Walking Dead. Hein.
D'accord. Je te regarde dans les yeux, Patrick. Je sais que toi et moi, Jurassic Park, c'est quelque chose de fort, de
important.
Très puissant.
20 ans cette année, bientôt 21 ans.
Ne m'en parle pas, ça me fait encore mal. Je n'ai jamais osé le lancer tellement. D'accord. Tout le monde m'a dit que c'était.
Mais moi aussi,
minable.
Je l'ai récupéré, je l'ai pas encore lancé, donc je vais le faire. Je vais quand même avoir le cœur net. Et puis un autre jeu, qu'on va peut-être sûrement citer tout à l'heure sur un des gros jeux 2013, c'est le Tomb Raider, le fameux reboot de Tomb Raider qui a vraiment fait parler de lui. On avait âprement parlé sur ce plateau. Alors deux annonces. On a tout d'abord l'annonce de la sortie le 31 janvier donc du portage de Lara Croft de Tomb Raider sur les nouvelles consoles, donc avec l'ajout de tous les DLC sur la galette, tout ce qui était sorti, une Lara Croft mieux modélisée, tout
et
ça.
Et de la pluie. Je parie sur la pluie.
C'est probable, surtout qu'il y en avait il y en avait dans le jeu original. Et bon, en tout cas, c'était un des gros jeux de cette année. Alors, est-ce que ça va être encore un titre à racheter? Pas forcément, si on l'a déjà fait, mais en tout cas, c'était une telle expérience de survival punchy que, bon, voilà, à suivre de près sur les next-gen. Et puis, j'ai appris aujourd'hui qu'il sortait sur iOS. Le tout premier Tomb Raider serait sorti sur iOS aujourd'hui.
4,89 centimes, écoute.
Alors, je ne l'ai pas encore lancé, je ne l'ai pas téléchargé, je vais essayer, j'ai un petit peu peur pour le gameplay, parce que le premier Tomb Raider, il est sans pitié, hein, quand on le relance.
On a fait le Anniversary,
qui était une remake plutôt jouable. Bien foutu. Ouais. Et alors là, je crois que c'est vraiment le premier Tomb Raider, qui est mythique, mais qui était vraiment, vraiment tendu au niveau du gameplay. Alors il faut voir. Je ne l'ai pas encore lancé, on en reparlera peut-être.
J'ai des souvenirs émus de la version Engage du premier Tomb Raider.
Je vois que tu en es aussi.
Pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas.
Mais il y avait un clavier, il y avait
une croix directionnelle.
Dans ma tête, j'ai l'image de Pippo Mantis en train de téléphoner avec son Engage.
Pendant 5 ans, Erwan.
Il a tenu 5 ans,
Et rappelez-vous, c'est le téléphone où on téléphonait sur la tranche. Ça, c'était quand même une sacrée expérience.
Et les fantasques assumés, mais. Donc, à voir, on verra bien sous ton mode.
J'étais quand même l'utilisateur du Engage.
Je téléphonais pas avec.
Pippo, tu avais aussi une news sur du côté des mobiles.
Très, très rapidement, oui. Ridiculous Fishing, l'excellent jeu de Vlambeer. Donc, Vlambeer, c'est les mecs qui ont fait Super Crate Box, Gun Gods et aussi Nuclear Throne, dont on avait parlé il y a quelques émissions.
Yep.
Ils ont tout bêtement gagné chez Apple, sur le store d'Apple, le jeu de l'année. Donc voilà, Ridiculous Fishing, c'est un jeu de pêche complètement débile qui du coup vient de sortir sur Android il y a quelque chose comme 2 semaines ou 3 semaines. Donc jetez-vous dessus,
je suis intéressé.
Très très bien, ça coûte pas grand chose et c'est, ouais, c'est la drogue quoi.
Je suis très intéressé. Eh bien écoutez, c'est... après cette introduction, vu que je ne voulais pas préempter disons le classement des jeux marquants de l'année, donc j'ai pas décidé tout seul de mettre des sons, des musiques. Si vous voulez, si quelqu'un veut faire un a cappella comme ça, une musique de jeu, non, pas de volontaire, d'accord. Je comptais sur toi, Pipo, je sais pas pourquoi.
Tout le monde quoi ?
Non, je sais pas. Tout le monde
vas-y, dubstep à la bouche.
Tout le monde fixe qui sont ses notes, qui sont iPad, qui sont...
Non, bah, voilà. Alors, 2013 en jeu vidéo. On va essayer de faire un petit bilan comme ça en jeu vidéo et... parce que nous avons la chance, je le répète, d'avoir Monsieur Fall sur le plateau, et en board games, en jeu de plateau. 2013, on a eu une année, enfin c'est pas la première année, hein, c'est le cas déjà depuis 2010-2011, mais une année assez, comment on pourrait dire, qui est un peu partie dans tous les sens au niveau du jeu vidéo. On a parlé de Kickstarter, il y a la scène indépendante, il y a les blockbusters. Bah, commençons par ceux-là d'ailleurs, les gros jeux. Est-ce qu'il y avait des tendances, des choses un peu marquantes, pas forcément en termes de titres que vous avez mis très en haut de votre top, mais en termes de style de jeu, en termes de nombre de jeux, peut-être qu'il y en a beaucoup moins d'ailleurs que les années précédentes. Qu'est-ce que ça a donné cette année 2013, Pipo, par exemple ?
Moi, j'avais été frappé d'une espèce, alors vous allez tous peut-être beaucoup rire, d'une espèce de recherche de maturité. Je dis pas maturité dans les jeux, mais recherche de maturité. Entre un GTA V, qui, même s'il est un peu rigolard sur le perso de Trevor, se veut quand même assez sérieux, un Tomb Raider, justement, qui, oh là là, on est méchant, on est gritty, on fait du mal à Lara, The Last of Us, qui est quand même, enfin, faut y aller, les Walking Dead, même si c'était un peu plus vieux, Beyond aussi, qui se voulait très très mature. Et très
Remember Me.
Enfin, voilà. Ouais. Il y a eu une vraie recherche de la maturité, un peu moins de déconnade, à part dans les Saints Row. Voilà, Saints Row 4, lui, bon, après, il a du coup toute la déconnette qu'il n'y avait pas ailleurs, il l'a prise pour lui. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai
qu'il a préempté la déconne.
C'est il ça. A polarisé.
Mais,
là.
Mais il y a eu une espèce de recherche absolue de la maturité et du sérieux qui est pas désagréable d'ailleurs dans certains jeux. Last of Us le fait extrêmement bien. Mais oui, si je dois retenir un truc en termes d'ambiance, c'est ce qui me vient en tête là tout de suite.
Les jeux vidéo se prennent un peu au sérieux ou ont envie de devenir, voilà, de passer. Enfin, on en parle, hein, le jeu vidéo à l'âge adulte, maintenant le joueur moyen à 47 ans. Non, pas encore, mais c'est voilà. Est-ce que vous avez ressenti même impression de... Oui, merci.
Non, pas encore, mais c'est une révélation. Ouais. Là, je suis sous le choc de ce que Pipo vient de nous expliquer. Enfin, c'est un truc, moi, ça illumine. Je vois l'année d'une façon tout à fait différente maintenant. Je me demande si je vais pas quitter l'émission là pour aller réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, c'est fort.
Mais ta propre réflexion alors sur les blockbusters, sur les grosses sorties, sur les jeux à gros budget et ce genre de choses, ou à moins gros budget. Enfin voilà, les gros jeux consoles. Non,
c'est une excellente question. Non, je...
Mais ce qui est marrant. c'est que justement cette année, j'ai joué peut-être à moins de blockbusters que les autres années et mon année de jeux vidéo a plus été diverse. Elle avait déjà commencé, je jouais à plus en plus de jeux indépendants, mais là j'ai joué à des jeux moyens en termes de taille, j'ai joué aussi à des jeux indés, j'ai joué à beaucoup plus de variété. Donc c'est vrai que même GTA V, moi cette année j'ai pas encore joué, je vais attendre la version PC. Il y a quand même beaucoup de blockbusters qui me sont pas passés à côté à cause de leur qualité, mais parce que mon temps de jeu n'est pas étendu et l'offre étant de plus en plus variée et de qualité dans sa variété, surtout. Du coup, moi, c'est ça que je retiens, c'est qu'en fait, les blockbusters, j'ai moins joué cette année. J'ai beaucoup moins allumé ma console cette année aussi que les autres années, au final.
Patrick, hein.
Une année assez intéressante, je trouve, parce qu'on sait qu'on est en fin de cycle de cette génération de consoles. C'est vrai que tous les regards étaient braqués, on sait, sur la fin d'année, sur l'arrivée des nouvelles bécanes. Et moi, en refaisant un petit peu mon top de 2013, j'étais surpris du nombre de jeux que je cochais en relisant un petit peu ce qu'on avait pu sortir dans Silence on Joue. Je suis assez surpris, par exemple, du fait qu'on fustige en général les suites. C'est vrai qu'on a beaucoup de suites. Hein. Moi, dans mon top, j'ai été surpris de voir le nombre de suites de licences qu'on connaît déjà. Et alors, je sais pas, il y a Tomb Raider, hein, le Zelda sur 3DS, le Mario sur Wii U, Assassin's Creed 4, GTA V, Rayman Legends, Luigi Mansion 2, etc. Alors, beaucoup de suites. En revanche, ce que ça me fait dire, c'est que j'ai le sentiment qu'on a atteint Tu parlais de maturité, Pipo, tout à l'heure. Je trouve que c'est, on atteint un plateau sur ces licences. J'ai l'impression qu'il y a eu une maturité de toutes ces licences qui sont nées il y a quand même quelques années pour certaines, hein, qui commencent à. Et j'ai l'impression qu'il y a une maîtrise. Alors évidemment, c'est dû aussi à la maîtrise des bécanes. Enfin, même si la Wii U est plus récente, mais voilà, on sent que les bécanes sont bien maîtrisées. Et moi, j'ai vraiment été bluffé par par exemple, Assassin's Creed 4, par exemple. Pour moi, c'est un plateau dans cet univers. Enfin, c'est une licence qu'on a vu progresser au fil des années. Celui de cette année est vraiment impressionnant. Tomb Raider aussi. J'étais à 5 aussi, à sa manière. Je trouve qu'on sent, voilà, en arrivant sur cette fin de génération de consoles, hors Wii U évidemment, voilà, on sent que les développeurs maîtrisent complètement les bécanes et arrivent vraiment à pousser au maximum le concept de certaines de ces licences. Et Tomb Raider aussi, et je trouve un exemple assez frappant.
Moi, je trouve assez bizarre en termes de très grosses productions cette année, parce que d'une manière classique, on va dire, la fin d'une génération, c'est là où il y a le plus de maîtrise technique, où on a les plus beaux jeux, et puis il y a les gens qui se préparent pour la génération suivante, mais je me trompe peut-être, c'est peut-être des faux souvenirs, mais j'ai l'impression que les années précédant les nouvelles générations étaient des années très riches parce que justement il y avait une grosse production, et puis surtout des jeux qui profitaient de la puissance technique des consoles. Et là, je l'ai trouvé, en tout cas en termes de nombre, en quantité, relativement limité, en fait, du côté des très gros, des gros titres, des jeux qui claquent visuellement. Alors, il y en a, hein, on va en citer plein, et il y en a même qu'on va pas citer, genre Batman Origins, qui, je pense, ne sera dans aucun top, mais visuellement est tout à fait honnête. J'ai trouvé qu'il y avait... Comme si on était sur, je sais pas quoi penser pour les années à venir en termes de très très grosses productions, mais on sent que le nombre de gens qui sont capables de produire ces productions commence à se limiter. Je sais pas, avec THQ qui a fermé, avec des gros producteurs qui ralentissent le rythme. Je sais pas, j'ai vraiment.
En revanche, alors peut-être un petit peu moins de titres, mais les titres que moi je citais tout à l'heure m'ont vraiment marqué. C'est des jeux sur lesquels j'ai passé un nombre d'heures abyssal, vraiment, plus que peut-être sur les précédentes générations de consoles, enfin voilà, sur Assassin, sur GTA, sur.
Mais moi je me demande justement Zelda, si on n'est pas au début d'une sorte de cycle concernant ces très gros blockbusters, parce qu'il y a de la pression financière, parce qu'en plus maintenant avec les next-gen, il va y avoir encore plus de. Parce que maintenant on est à quoi? En moyenne, on doit être à 60 millions de dollars le blockbuster, et 200 quand on s'appelle GTA 5 et ce genre de choses. Qui peut financer ces choses-là et qui peut assurer de se planter, c'est-à-dire qui a les épaules assez solides pour se planter sur une production à 80 millions de dollars.
Mais d'où le nombre de suites très important.
Et d'où le nombre limité. Et moi, ma question, c'est est-ce que dans les années précédentes, où ça va passer à 100, 120 millions de dollars parce qu'il va falloir claquer sur PS4 et Xbox One, qui a les épaules, et mis à part Ubisoft, Activision.
Mais
et
je pense que les éditeurs l'ont déjà compris, parce que sur la PS4 et la Xbox One, on voit la politique des éditeurs par rapport aux éditeurs tiers et aux indés qui s'est totalement ouverte. C'est que avant c'était extrêmement difficile pour un petit studio, même pas amateur, mais un petit studio, d'avoir son jeu accepté en fait sur ces précarés de vente en ligne sur PS Store et Xbox Live. Et aujourd'hui, et notamment on l'a vu avec la présentation de la PS4, il a quand même fait venir Jonathan Blow, qui l'a fait venir. Ben voilà, il a fait quand même venir et mis en avant des indés avec une politique d'ouverture forte justement des indés, parce que même les éditeurs se rendent compte que le pouvoir attractif d'une console, et de même la viabilité économique d'une console maintenant, ne passe plus que par les jeux AAA et des gros éditeurs, et passe aussi par des éditeurs plus moyens en termes de taille et des indés. Et ça, c'était très 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 marquant en tout cas.
En deux trois ans,
on est passé, je sais pas si vous rappelez, il y avait des scandales là-dessus. En 2-3 ans, on est passé d'une fermeture et d'un blocage total à une ouverture vraiment vraiment impressionnante.
En fait, on va pas refaire l'histoire, mais je crois que c'est grâce au Xbox Live Arcade et genre Castle Crashers, Braid, Limbo et Super Meat Boy en gros, qu'il y a eu cette espèce d'énorme percée des indés sur console, et que c'est là que Sony a dit si on veut pas passer pour des branques à la prochaine génération, faut qu'on soit super agressif là-dessus. Même et c'est pour ça qu'à l'E3, ils ont
même,
été,
même Microsoft qui avait une politique un peu dure sur les mises à jour, sur les etc.
Ah bah oui, c'est... ça coûtait une fortune de faire le moindre patch. Maintenant, c'est gratuit. Ouais.
Ils sont vachement ouverts aussi.
Ah oui, ils sont passés en gratuit. Tout à fait. Ah bah oui, c'est vrai.
C'était une des grosses news il y a quelques mois.
Mais on n'est pas encore dans le paradis des indés, parce que là, on a vu il y a pas très longtemps les gens de Steven Studio, les Français qui ont fait le jeu Ethan Meteor qui est sorti il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, qui ont fait un post-mortem sur Internet.
Un post-mortel, par
vraiment,
ailleurs.
Vraiment mortel, parce que en un mois, sur PC, ils avaient vendu exactement 127 exemplaires de leur jeu. Les chiffres PlayStation 3, parce que c'est sorti sur PC et sur PS3, ils n'ont pas le droit de les révéler. Enfin, moi je les connais, j'ai pas le droit de le dire, mais c'est plus, mais c'est pas spectaculaire non plus.
Et c'était dû à quoi? C'était la communication,
un peu tout, mais
si le jeu était tout simplement très super.
Mais c'est très spectaculaire d'avoir si peu de ventes. Ils ont eu des bons échos dans les studios. C'est sûr, c'est pas un jeu extraordinaire, c'est plutôt un bon jeu qui a des qualités, il y a des erreurs. Mais là, un studio qui sort un jeu comme ça et qui en vend si peu,
moi ça m'étonne pas.
C'est qu'il y a beaucoup d'échecs. On parle beaucoup des indés qui se vendent bien, mais c'est une extrême minorité.
Mais non, mais c'est normal d'un côté. Il disait c'était Games Industry, donc le site des développeurs, donc c'est le côté développeur de la chose. Il disait 2013, c'était très intéressante parce que effectivement, ça s'est ouvert aux indés, mais on est tellement maintenant il y a vraiment une surcharge d'offres. Et alors qu'avant il y avait 4, 5 indés, 6, 7 indés de qualité. Maintenant, la qualité a augmenté et des jeux de qualité il y a 2-3 ans, maintenant il y en a une tétrachie, mais vraiment.
Le mois dernier, il y a 150 jeux qui ont été greenlightés sur Steam, ça devient n'importe quoi.
C'est qu'il y en a énormément, et maintenant c'est difficile, même quand on a une bonne idée et un bon concept indé, de percer. Même moi, je vois des tonnes de jeux passer sous mes yeux, des jeux indés. Quand j'ai fait mon top des jeux indés, j'ai regardé aussi, j'ai demandé aux internautes de Sens Critique de noter. J'ai vu des tonnes de jeux indés que moi, j'ai pas vu passer.
C'est le même phénomène d'encombrement que sur Apple Store, enfin sur l'App Store, sur Android. C'est pareil. C'était ouvert il y a encore 4-5 ans, et maintenant c'est.
Mais sur l'histoire d'Ethan, ce qui est troublant sur ce jeu-là, moi que je suis incapable de dire si c'est bon ou mauvais, parce que malheureusement, j'ai pas joué, mais. Ce qui est sur leur poste, ce qui était assez terrible, c'est que finalement ils n'avaient pas fait assez de ventes pour enclencher un mouvement si leur jeu avait été excellent. Et imaginons, c'est un excellent jeu, tu fais 127 ventes PC, c'est même pas assez, 127 personnes qui vont conseiller ça à leurs amis, c'est même pas assez pour en faire un succès à la hauteur de la qualité. Ouais. C'est ça qui est...
Il n'est pas sur Steam, il est en Greenlight, ils essaient de le faire Greenlighter, mais il n'est pas sur Steam.
C'est vrai qu'être sur Steam, quand même, être sur Steam, maintenant, pour un jeu indé, c'est quand même un peu un passage obligé pour être découvert.
Sauf qu'en fait, les gens attendent
qu'ils
soient en promo.
Qui sommes entre guillemets journalistes et qui pourront les creuser, c'est quand même une obligation.
Mais après, les gens attendent qu'ils soient en promo à 2,50€ pour l'acheter assez souvent.
Pas forcément.
Mais c'est vrai qu'il y a un encombrement. On commence à parler, évoquer l'hypothèse d'une explosion de la bulle indé. Enfin, c'est vraiment une expression qu'on peut lire.
Combien de pipos, 150
150 sur Greenlight, le mois dernier ou un truc comme ça. C'est gigantesque.
On va pas se plaindre non plus.
Hein. Non, on va pas
se plaindre.
Mais ça profite au final à personne, ni à la presse qui peut pas tout couvrir, ni aux joueurs qui vont jamais avoir le courage d'acheter 150 jeux et de les tester en un mois, ni du coup aux développeurs qui sont noyés dans la masse. C'est un système qui malheureusement profite à personne. Je préconise pas de revenir au truc super drastique du Xbox Live Arcade qui était un jeu tous les mercredis, faut pas pousser. Mais il y a peut-être un juste milieu entre les deux, quoi.
Kalash, pareil, sur les jeux indés, parce que c'est un peu quand même une de tes spécialités, sur le nombre de sorties.
Justement, l'autre fois, j'ai discuté avec des développeurs qui m'expliquaient que avant le Graal absolu, c'était d'arriver sur Steam. Maintenant, être sur Steam, ça suffit plus. Voilà, c'est la cruelle réalité.
Il faut y aller, mais ça suffit plus. Ouais.
Pour moi c'est pas non plus un problème parce que on est quand même en distribution numérique, donc il y a plus de on va pas non plus commencer à hurler parce qu'il n'y a plus les barrières à l'entrée qu'il y avait avant. Si on a supprimé cette barrière de distribution et qu'on autorise les gens à créer des jeux, à les distribuer de façon numérique, on va pas se plaindre qu'il y ait des gens le fassent.
Bien sûr, mais c'est juste que pour les développeurs qui pensaient entre guillemets que ça allait être viable pour eux, ça l'est pas forcément. Voilà, c'est juste ça.
En fait, c'est que toutes les données du problème sont en perpétuelle évolution. Enfin, en ce moment, le marché n'était pas la même chose il y a un an, c'est pas la même chose maintenant, ce sera pas la même chose l'année prochaine. Si on en reparle, je suis sûre que ça aura encore beaucoup changé, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que c'est vachement difficile pour les petits d'arriver à savoir quel doit être leur objectif, en fait. Est-ce qu'il faut tout miser sur être disponible sur Steam? Est-ce qu'il faut tout miser sur arriver à se faire connaître auprès des journalistes, machin? Enfin, Je crois que tout le monde est perdu.
Est-ce que le prix est un levier, par exemple?
Oui.
Mais qui peut être dangereux hein, pour un petit studio indé. Enfin, c'est super tendu hein, à manipuler. Mais
je te laisse la parole, Kalash. Mais sur l'impression générale, justement, sur les indés, en 2013, qu'est-ce que ça a donné la prod? On sait que 2012 avait été une année absolument extraordinaire pour la production indé. On se rappelle encore du bilan de l'année dernière avec des jeux comme FTL, avec des jeux comme Hotline Miami. Enfin voilà, il y avait
Botanicula aussi.
Botanicula qui ouais. était sorti. Enfin, on était vraiment, moi je me rappelle encore de 2012 où j'ai limite du mal à me souvenir des blockbusters qui sont sortis cette année-là face à, même si on mettait, même si c'est pas forcément un indé, mais de journée qui était aussi ouais, un peu dans cette catégorie-là de, au sens large. Enfin voilà, c'était une année marquante. Est-ce que finalement 2013, on est sur la même tendance?
Bah moi j'ai l'impression que, enfin je sais pas, moi en faisant mon top, j'ai quasiment que des indés. En fin de compte, dans les grosses productions, les trucs que j'ai kiffé, bah en fait c'est un jeu de 2012 auquel j'ai joué en 2013 parce que j'avais pas eu le temps. Et voilà, tu vois, c'est du Don't Starve, du Faster Than Light. Il y avait plein de jeux indés et plein de jeux indés qui venaient de l'espace, quoi. Enfin, tu vois, des trucs que t'avais jamais vu. Enfin voilà, le mois dernier on parlait de Red Shirt, j'avais jamais vu un jeu comme ça. Don't Starve, moi j'avais jamais joué non plus à un jeu comme ça.
Papers, Please aussi.
Papers, Please, voilà, c'était.
Stanley Parable.
Est-ce que justement, je pose la question, est-ce que c'est pas aussi une des nouveautés entre guillemets de 2013, c'est le jeu indé qui s'émancipe de l'histoire du jeu vidéo, parce que qui commence à s'émanciper de l'histoire du jeu vidéo, parce que le jeu indé, quoi qu'on en dise, pendant très longtemps ça a été le renouveau du pixel, ça a été du platformer, ça a été mais du platformer conceptuel, du platformer thématique, du platformer graphique, ou alors du oui, est-ce que le jeu indé commence pas justement à s'émanciper, à aller chercher du côté des nouveaux gameplay, des nouvelles façons de jouer?
Il y a encore un peu de ça, hein, à la rédac, quand on fait quand à une époque on cherchait voilà tous les jeux justement sur Greenlight qui pouvaient être intéressants, machin, il y a encore quand même beaucoup de trucs qui sont des photocopies de gameplay, de trucs qui existent déjà. Bon, mais n'empêche que c'est vrai que noyé dans la masse, de temps en temps, il y a des trucs nouveaux ou des trucs qui sont pas forcément nouveau, mais qui arrive à mélanger de façon originale des ingrédients qu'on connaissait déjà, quoi.
On pense à Kentucky Route Zero qui part d'un principe de jeu d'aventure pour en faire quelque chose de complètement dingo au final, ou à Papers, Please qu'on a nommé. C'est dur, c'est difficile de trouver un équivalent à Papers, Please.
C'est vrai qu'à côté, t'as aussi toujours les Guacamele, des Battle Block Theater, le Beat Trip Runner 2, qui sont des jeux que j'adore, mais qui sont aussi dans ce truc. Dans ce truc de relecture de code des jeux de plateforme 2D ou du Metroidvania pour Guacamele. Enfin, voilà, il y a des Papers, Please, mais il y a toujours aussi ces jeux de pixels, mais qu'on aime aussi.
Et de ton côté, Erwan, par exemple, cette année en jeu indé,
le problème, c'est que j'en ai tellement aimé que ça va ressembler à mon top dont je vais parler tout à l'heure.
Donc, tu vas spoiler ton top aussi.
C'est ça un peu le risque. Mais moi, vraiment, oui, c'est vraiment une variété. C'est-à-dire qu'il y a des. Je reparlerai tout à l'heure de Gone Home, mais Gone Home dialogue avec BioShock. Il y a des Papers, Please qui sont très 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 loin de. Je vois quelqu'un qui rit, mais je sais qu'il n'aime pas Gone Home déjà, donc on pourra en parler tout à l'heure. Il y a Papers, Please qui est très radical. Il y a ces jeux dont je parlais qui sont plus proches des jeux de plateforme, etc. Enfin, moi vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir effectivement des choses très 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 variées dans les indés et les blockbusters dont on parlait. Moi, le problème, c'est que j'ai justement, je vais pas en revenir très longtemps, mais il y en a beaucoup qui m'ont pas laissé tant de traces que ça. Tomb Raider, on en reparlera aussi, j'imagine, mais formidable expérience, j'en décrochais pas, et puis là, qu'est-ce qui m'en reste? Pas tant que ça. Et ça rejoint ce que tu disais, en niveau de prise de risque, je suis pas sûr que ce soit une si grande année que ça, quoi.
Et juste parce que tu en as beaucoup parlé dans ta news d'intro, Clément, mais dans ces histoires de barrières à l'entrée qui empêchaient finalement le jeu indépendant de vraiment... qui explose depuis 2007-2008. Il y avait effectivement l'accessibilité, le fait de pouvoir être disponible, et il y avait le financement qui était aussi un des gros problèmes. Et on a aussi l'impression 2013, Kickstarter qui a explosé début 2012, 2012 qui a aidé. Enfin, voilà,
c'est Kickstarter, c'est pas non plus la panacée. On se rappelle de
justement les plantages aussi.
On rappelle les plantages. Il y a Eric Viennot qui s'est planté. Il n'y a plus que le nom du développeur qui joue. Il n'y a plus que le type. Il y a aussi des beaux plantages, des studios qui comptaient, qui espéraient et qui voilà sont.
J'en ai vu un récemment que j'ai, d'ailleurs en fait il y en a tellement que celui-là que je n'avais pas vu qui était sur la révolution iranienne qui s'est planté.
Mais ils l'ont relancé là sur hors Kickstarter mais sur leur site.
Ouais, mais ouais. Ils demandaient 375 000 euros, ils sont arrivés à 309 000 euros, c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que voilà, c'est aussi l'année où les désillusions, hein, on a vu avec l'Exis numérique, et les désillusions par rapport à Kickstarter. J'ai juste, est-ce qu'il y a, en 2013, est-ce qu'il y a eu des tendances côté board games, côté jeux de plateau, monsieur Fall?
C'est rigolo parce que je vous écoutais, je vous avoue, hein, je ne m'intéresse quasiment absolument pas aux jeux vidéo, donc je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans le secteur. Mais en fait, dans le jeu de société, c'est à peu près la même chose qui se passe. Pas cette histoire de blockbuster et de studios indépendants, tout ça, parce qu'on n'en est pas à ces sommes colossales là dans le monde du jeu de société, mais il se passe le même phénomène sur Kickstarter, etc. C'est rigolo, tu parlais des boîtes qui ont dépassé le million de dollars, il y a des jeux qui ont atteint 1,8 million sur Kickstarter, un jeu avec des zombies. Donc c'est pas rien, 1,8 million $ pour faire un jeu de société avec des zombies. Oui. C'est quand même assez colossal. Et le jeu fait un carton monstrueux. C'est assez rigolo. Alors cette question de Kickstarter se pose aussi dans le monde du jeu, puisque c'est un bon moyen de financer, surtout que financer un jeu de société, c'est la production, le matériel, etc. Donc c'est plutôt très important. Et il y a des stretch goals, on appelle ça, pour avoir des trucs supplémentaires à l'intérieur. Et là aussi, il y a des plantages.
Il s'est vendu sur quoi, par exemple, ce Kickstarter? Sur un concept,
il s'est vendu sur deux choses,
Sur les zombies.
Sur les zombies, exactement.
Mais c'est toujours vendeur, le zombie.
Mais c'était le premier qui faisait ça. Et surtout, alors c'est un jeu américain, la Méritrash, on va dire. Et c'est un jeu avec des figurines. Et elles étaient tout simplement magnifiques. Et il est vrai qu'énormément de pledgers ont mis des sous pour avoir des figurines exclusives, super bien sculptées, etc. etc. Donc ça faisait les mecs, ils mettaient $100 pour avoir leur jeu, juste pour avoir les figurines. Donc c'est ce qui a aussi aidé, et le côté zombie. Parce que la règle était assez simple, mais ceci dit, c'est très immersif, donc on passe beaucoup de temps, beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là, où on dégomme du zombie
Patrick
à tour de bras. C'est assez rigolo.
Il est sorti ou...
Ah, il est sorti, non seulement il est sorti, mais la saison 1 avait fait $1 million, la saison 2 a fait $1,8 million. Donc
ah oui quand même.
Donc ça marche. Ça fait un carton même en France, ça fait un carton dans les boutiques. On avait peur avec Kickstarter que ça porte préjudice aux boutiques, mais
comment
en fait non. Zombicide. Voilà, Zombicide, ils ont fait une extension qui permet d'aller tuer du zombie dans des centres commerciaux. C'est assez rigolo.
Ça va très bien. Le zombie et le centre commercial s'entendent très bien.
Et il y aura une petite figurine à mon effigie dans le jeu. Et ils nous ont fait cet honneur-là, je te jure. On en avait parlé, on avait une histoire de changement de politique éditoriale. Donc les éditeurs se mettent à faire des goodies et les mecs qui ont fait Zombicide, ils m'ont proposé de faire une petite figurine à mon effigie pour nous la donner gratuitement pour qu'on puisse la vendre. Je vous en réserverai une,
monsieur. Je suis hyper fan.
Moi aussi. Donc c'est assez rigolo. Et donc les tendances sont assez les mêmes. Le marché se cherche. Il sort énormément de jeux. Il est sorti à peu près 800 ou 900 nouveautés cette année. Alors je parle France internationale. Il en sort pour tous les goûts. Moi-même, je n'ai plus le temps de jouer à tout. Donc c'est assez difficile. Il en sort pour tout le monde, pour les gros joueurs velus, les enfants, les femmes, les mariés, les pas mariés, les divorcés, les familles recomposées, les jeux faciles, les jeux compliqués. Il y en a pour tout le monde, avec des chiffres assez étonnants. Un jeu comme Double, qui est un jeu fabriqué en France, édité en France, c'est 800 000 exemplaires. C'est assez
colossal.
Ah oui, en France, ça a détrôné le Monopoly, tous ces trucs-là à la trappe. C'est 800 000 exemplaires juste en France. Aux États-Unis, ça s'arrache. C'est un jeu français qui a trouvé une licence là-bas. Donc on voit beaucoup arriver des jeux comme ça.
C'est 3% de notre balance du commerce extérieur.
Ah bah, c'est énorme. Et donc on voit beaucoup de jeux. Le jeu se répand. J'aime à dire que il y a beaucoup de joueurs de jeux vidéo qui se sont mis aux jeux de société.
Présent.
Voilà, présent, par exemple. Voilà.
Grâce à Silence on joue,
plein de gens sur les salons qui viennent me voir parce qu'ils écoutaient l'émission. Donc ça, c'est très plaisant. C'est des mondes qui se suivent, qui sont qui se recoupent. Donc ça, c'est très plaisant. Et le jeu se répand de plus en plus. Avant, c'était des geeks qui portaient des t-shirts pour se reconnaître et des grosses lunettes.
Dans le jeu de plateau aussi. Oui.
Voilà, c'est ça. Mais maintenant, il y a de plus en plus de. Le jeu se répand. Et ça, c'est très plaisant. Il y en a vraiment pour tout le monde. Donc la tendance, c'est un secteur qui se cherche un petit peu, mais qui offre un panel de plaisir encore plus varié qu'il y a 4, 5 ou 6 ans quand on a commencé.
Mais quand même, c'est aussi un souci, les 900 sorties dans l'année.
Oui, c'est la même chose que pour vous en jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il se passe deux choses. Les gens ne peuvent pas tout acheter parce que l'offre est plus grosse que le pouvoir d'achat des joueurs pour le moment. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde est excité par le fait que le jeu fonctionne. C'est-à-dire, quand je dis le jeu de société fonctionne et se vend. Donc du coup, il y a de plus en plus d'éditeurs qui produisent des jeux. Et il y a un gros écart, un gouffre entre les jeux à succès à 800 000 exemplaires et les jeux qui avant se vendaient à 6 ou 7 000 boîtes et qui du coup, s'ils ne trouvent pas leur public, sont à 1 000 boîtes et ce n'est pas viable. Oui. Donc ça devient risqué. Mais là arrive Kickstarter. pour sauver tout le monde, tel Zorro. Alors on analyse, on étudie, on voit que ça va aider le secteur, comme ça a dû probablement aider les indépendants au départ. Mais voilà ce qui se passe maintenant, trop d'indépendants. Et ben dans le monde du jeu de société, ça va être pareil. Il va y avoir trop de jeux, même Pledge ou Baker sur Kickstarter qui vont arriver. Il y en a trop. On ne sait plus quoi choisir, ni comment, ni pourquoi. Alors pour les journalistes, c'est du pain béni, puisque le boulot
de journaliste... Les gens ont besoin de savoir.
Les gens ont besoin d'informations. Ouais. Ils ont besoin d'avoir des conseils, de faire du nettoyage. Donc c'est bien pour les journalistes. Après, pour les maisons d'édition, ça devient plus compliqué.
Ouais, bah oui, c'est un peu le souci pour les journalistes qui commencent à se spécialiser en jeu indé. C'est pas mal, hein. Il y a pas mal de choses à regarder. Il y a pas mal de surprises aussi. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans le jeu indé. Ça a remis la surprise au goût du jour dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, maintenant, des jeux qui sortent où on n'a même pas le temps d'avoir envie de les attendre parce qu'ils sont là. Moi, ça m'a fait le coup avec The Stanley Parable. Alors, j'avais pas suivi le mode. Le mode de Half-Life 2, j'avais pas vu passer, et à un moment, j'ai ouvert mon Steam et j'ai vu The Stanley Parable. J'ai cliqué, j'ai regardé le trailer, j'ai fait waouh, c'est quoi ce truc, téléchargé, acheté, et puis là j'étais juste sur le cul, et du coup ça recrée une dynamique de surprise dans le jeu vidéo que j'aime pas mal, et d'attente quand on a backé des jeux qui sortent deux ans plus tard, d'ailleurs, hein, est-ce qu'il y a des choses, alors moi j'avoue que cette année j'ai mis à part Ruzzle, bon, ce qui est un peu limité en termes de sur cette plateforme, en jeu pour mobile, iOS et ce genre de choses, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vu passer?
Alors, moi, j'en ai pas vu passer beaucoup, mais j'en ai vu passer un grâce à Dead Sabes, c'est Device 6. Et c'était foufou. Hein. Enfin, donc, ça, pour ceux qui n'ont jamais vu le jeu, ça ressemble au départ à un livre, où il y a du texte écrit, et un peu à la manière des poèmes de je sais plus qui. Ça fait des
Apollinaire.
Voilà, merci.
Ou la maison des fesses.
Voilà, ça fait des dessins, ça tourne, et c'est des vraies énigmes comme j'aime, c'est-à-dire des énigmes où en fait il faut prendre un papier, un crayon à côté et noter des trucs. Et ça raconte une histoire, mais hyper étrange, hyper. Enfin bref, c'est fantastique. Device 6 sur iOS.
Mais il faut bien connaître l'anglais.
Ah ouais. Alors
voilà, c'est de l'anglais. Voilà, il faut bien manier la langue. Parce qu'il y a des énigmes aussi qui jouent avec des jeux de mots en anglais.
Exactement.
Etc. Donc,
ce jeu-là est sorti là en fin d'année, mais le même studio, je crois que c'est des Danois, avait sorti Yerwalk au début aussi, d'année, qui était aussi quelque chose de très original et très différent en même temps de Device 6. Enfin, c'est des gens à suivre en tout cas.
Ah oui, effectivement. Oui. Pipo ?
Alors, je vais tricher un peu parce que c'est du mobile, pas vraiment, mais c'est surtout pour revenir sur ce qu'on disait sur les indés. Je veux juste faire des gros bisous à la communauté indé et à Sony pour sortir des jeux sur PlayStation Vita, des jeux comme Hotline Miami, des jeux comme Spelunky, parce que Spelunky dans le métro, c'est extraordinaire. Stealth Inc, plein d'autres choses, et il y en a une tonne qui vont encore arriver. Et juste voilà.
Thomas Wazolo,
exactement.
Proteus est arrivé aussi. Il y a plein d'indés.
Il y aura Nuclear Throne, il y aura plein de choses.
Proteus, hein,
moi j'adore.
Et voilà, la Vita vient de trouver une vraie utilité. Il y avait trois jeux intéressants, maintenant il y en a beaucoup beaucoup plus, et ça c'est très cool.
C'est pas faux, et d'ailleurs c'est mobile, hein, voilà, Vita, mobile.
C'est pour ça que ça passe.
Faut arrêter. Pas mal. Patrick, tu nous as pas reparlé des sorties sur iOS de jeux mythiques et ce genre de choses. J'ai l'impression que tu t'endors là.
Non, pas du tout, je vous écoute. Non, c'est super intéressant. Non, en sortie iOS, mais cette année, il y avait le Rayman qui était encore une fois bien fichu, le Fiesta Run qui marchait sur les pas du précédent. Et puis Rocket Ranger, évidemment.
Je
vous le sers.
Mais ça m'inquiétait. Ça m'inquiétait. T'étais au fond de ton fauteuil là.
Version Amiga, très très bien.
Voilà. Moi, juste pour revenir, moi sur les jeux mobiles, je vais rejoindre pour le coup Monsieur Fall. Moi, j'ai joué à des jeux de plus de plateau sur tablette, notamment Small World 2. Enfin, donc vraiment, c'est un jeu de plateau à la base qui, pour le coup, se trouve magnifiquement porté sur iPad. Et c'est pour moi, en tout cas, un plaisir de pas avoir à calculer mes lancers de dés, les coups que je peux faire, la mise en place.
Et ça se joue en solo?
Ça peut se jouer en solo, mais sur multijoueur par internet, mais c'est quand même plus sympa quand tu joues avec un pote en face de toi.
Et je rajoute, ils viennent sortir là cette semaine sous Steam et tout ça, là, vos plateformes où vous téléchargez des trucs. Ça. Donc maintenant, c'est compatible avec Google, machin, tout ça, tous les téléphones. Et quand vous jouez en ligne sur votre téléphone, vous pouvez jouer avec un mec à l'iPad, l'ordinateur, tout ça est, c'est tout nouveau, tout frais là.
Tu veux dire que tu fais du cross-platform?
Tout à fait.
Pas moi, mais les autres, oui.
Et ben d'ailleurs, ne quittez pas votre micro, Monsieur Fall, car oui, c'est le moment, ce moment qu'on adore, de Monsieur Fall, la chronique de Monsieur Fall, qui vient nous parler de jeux de société. J'allais dire bonjour Monsieur Fall, mais
bonjour mon cher Arwan. je vais la faire plus lentement, parce que c'est vrai que je parle vite, parce qu'en fait je m'enregistre et j'ai un chrono sur la table, donc j'essaye de caser le maximum de mots en 2 minutes, 2 minutes 30. Donc cette fois-ci je vais me poser. Alors je vais faire l'égoïste total et pur. Je vais vous parler d'un jeu que j'ai découvert il y a quelques jours, qui était présenté à Essen, donc en octobre, là, un grand salon en Allemagne. Et moi, je l'ai découvert juste là, parce qu'il sort tellement de nouveautés. Et c'est un jeu qui n'est disponible, attention, qu'en allemand. Alors, c'est tant pis pour vous. Hein. Mais c'est un jeu qui ne contient aucun texte. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut y jouer.
C'est muet en allemand.
Voilà, c'est ça. C'est internationalement, on va dire, composé. La règle, elle va être disponible quand vous lâchez chez votre boutique en France, parce que c'est disponible sur les boutiques en France. Il y a une règle qui sera fournie avec, traduite par la
va-vite. C'est patché, quoi. C'est papier.
Mais je pense que.
Pas du day one.
Vu l'éditeur principal qui est Cosmos en Allemagne, il devrait y avoir une traduction française. Je crois même qu'elle va bientôt arriver, enfin début de l'année prochaine, en français. Les règles seront en français, mais il n'y en a pas besoin pour jouer. Surtout que je risque de faire une vidéo où je vais expliquer les
et
règles.
Ça s'appelle comment alors?
Ça s'appelle Nauticus. C'est un jeu qui est signé Wolfgang Kramer et Michael Kessling. Ce sont des auteurs que j'affectionne particulièrement parce qu'ils ont créé quelques jeux qui sont mes jeux préférés il y a une dizaine d'années. Alors c'est un jeu à l'allemande avec des ressources, mais qui a cette particularité de me satisfaire dans la mesure où est sorti cette année beaucoup de jeux où il y avait énormément de choses à faire à l'intérieur. C'est-à-dire que la tendance c'était je fais une action qui va déclencher une action qui va me permettre de gagner un truc, qui va me permettre de marquer un machin que je vais pouvoir transformer en points sur 3 plateaux différents et séparés. Et à bout d'un moment on n'en peut plus, quoi. Moi je mélange toutes les règles, je mélange tout, j'en peux plus. Et là, il y a juste une action à faire à son tour parmi 8 possibles. Donc chaque joueur va la déclencher. Et en plus, celui qui va déclencher l'action va avoir un petit bonus, mais tout le monde va effectuer l'action. Pour les grands anciens, ça rappelle un petit peu Puerto Rico, qui est un jeu culte. Alors pourquoi j'ai beaucoup aimé ça? Alors l'idée générale s'appelle Nauticus. On va fabriquer des bateaux avec une coque, un mât, une voile. Sur ces bateaux, on va mettre des marchandises et il va falloir livrer ces marchandises. Et il y a 3 moyens de marquer des points en fabriquant des bateaux. Plus il est gros, il va marquer de points. En livrant des marchandises, tout ça est très logique. Si on en livre pas mal de uniques en faisant un marché, par exemple que du poisson, on va marquer plus de points que si on fait de la diversité. Et puis il y a un comptage comme ça de gloire en fonction des mâts qu'il y a sur son bateau. Enfin, je vous passe les détails. Quoi qu'il arrive, il n'y a que 3 manières de marquer des points. À son tour, on ne fait qu'une action. Et pourquoi j'aime beaucoup ce jeu? Parce que c'est de l'opportunisme pur et ça correspond à mon cerveau. Il adore ça. Parce que planifier sur des heures et des heures, ça me fatigue. Moi, j'aime bien regarder ce qui se passe sur le plateau à un moment donné comme ça, et de faire la meilleure chose possible à ce moment-là. En plus, comme on sait que les autres joueurs vont déclencher l'action, c'est très malin, je trouve, d'essayer d'analyser ce que vont faire les autres pour essayer d'en profiter. Voilà. Et ce petit jeu, la partie, alors ça se joue de 2 à 4 joueurs, c'est édité donc je vous l'ai dit chez Cosmos, c'est à partir de 12 ans, les règles sont super limpides, super fluides, l'iconographie est très claire et puis c'est très logique. Je trouve que c'est important dans un jeu de société d'avoir une logique qui est je vais construire mon bateau avant d'y mettre des marchandises. Voilà. Et ça dure à peu près 60 minutes, 90 minutes grand maximum et c'est très plaisant. On n'est pas obligé de réfléchir pendant des plombes. En plus, quand les autres réfléchissent, on n'a pas besoin de trop réfléchir non plus. Donc, on peut parler avec son voisin à côté, puisque l'autre, il est en train de réfléchir à son coup, comme ça va un petit peu bouger à son tour. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Ça coûte 35 euros, c'est pas très très cher. Plein de matériel, Nauticus. Alors, faut attendre un petit peu pour l'avoir en français, mais chez les boutiques en ligne, c'est livré forcément avec la règle. Enfin, en tout cas, c'est mon coup de cœur de cette fin d'année.
Un jeu d'opportunisme à l'allemande.
C'est pour moi.
On commence à connaître. Hein,
exactement.
Eh bien, merci Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. On n'en parle jamais assez, la web TV de TrickTrack.net. Vous avez le droit d'acheter des Pricos, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est notre monnaie interne qu'on a.
C'est pas les bitcoins, hein. Non, c'est pas les bitcoins.
Non, c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus sûr.
C'est ça. Mais ça vaut moins. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de marché noir.
Pas encore.
Ah, de marché parallèle, mais c'est la chose. La minute culturelle, alors, wouhou! Êtes-vous prêts, messieurs, dames? Et surtout, monsieur Fall, vous avez le droit de participer parce que j'avais prévenu, bien avant que vous arriviez. Et alors, pour cette dernière minute culturelle de l'année, nous avons 2 auteurs. Nous avons Jérémy Israël qui est très en forme, mais nous avons le comeback. Le comeback, mais vous savez déjà de qui je vais parler. Le comeback de Marmotte19 lui-même qui revient pour cette dernière de l'année 2013 et qui va commencer donc la série de questions parmi les jeux suivants. Attention, les réponses devront être rapides. Je vais faire 6 colonnes hein, parce que...
organisation.
Ouais, on compte les points. Ça fait 2 ans que tu ne faisais plus.
On arrête de déconner. Hein, vous avez les mêmes initiales, Patrick Pipomantis, vous saviez. Voilà.
Pardon.
Ça commence par un P.
Mais non.
Ah, ça commence par un P. Quoi.
C'est pour mon tableau.
Qui arrive.
Et
Erwan.
Voilà. Non, mais moi je joue pas. Moi, je donne les questions.
D'ailleurs, c'est un peu facile.
Oui, je sais. Parmi les jeux suivants, lesquels ont connu une adaptation en jeu vidéo, sous-entendu jeu boîte ou dématérialisation ou application, mais pas de jeu en ligne sous browser.
Oui, donc c'est une vraie sortie.
Voilà, un vrai jeu. Vous ne répondez que si vous connaissez la réponse, parce qu'il y a vu que c'est que oui ou non. Hein, je vous ai à l'œil. Magic the Gathering.
Oui.
Ça fait dur, là.
Une tonne. Enfin, Duel of the Planeswalker, ouais. Sur PS1, il y en avait. Enfin, oui, c'est n'importe quoi.
Trivial Poursuite.
Oui. Chez Domark. Oui.
De toute façon, tout le monde a marqué, donc je note pas cela. Hein,
Ah, ça commence.
Un monde sans fin.
C'est quoi ça ?
Je crois pas, non.
Bonne réponse de Monsieur Fall, un non. Voilà. Donc Monsieur Fall.
Moi qui connais le jeu sur boîte. Surtout, c'est un excellent jeu. J'en ai des dizaines de parties au compteur.
Carcassonne.
Oui.
Allez, vous, je compte pas. Il y a trop de réponses. Dungeon Twister.
Oui.
Ah bah Monsieur Fall.
Excusez-moi.
Claustrophobia.
Non.
Voilà. Bah. Seven Wonders.
Oui.
Eh bien non.
Non, c'est vrai que c'est un compagnon.
C'est un
compagnon de jeu.
Ah, il n'y en a pas eu du tout, genre sur iPad ou...
Pas encore.
Sur Xbox Live, il y en a...
Non.
Moins un pour Pipo Mantis.
Comment ça, des moins un?
Il ne faut pas déconner.
Ah, l'arnaque.
Torres.
Alors, j'ai pas compris le début de l'intitulé sous browser de quoi, parce qu'on peut y jouer en ligne sur Internet à Torres.
Ah, mais ça compte pas, justement.
Ah, d'accord, alors je dis rien.
Bah non.
Moi je dis non alors.
J'avais pas compris l'intitulé de départ.
En fait, en jeu boîte ou dématérialisé ou application,
mais pas
un jeu en browser.
Ok,
en fait.
D'accord.
Voilà, pas un free to play en browser, machin.
Comme une hiérarchie qui est posée là. Quand
les aventuriers du rail.
Oui.
Bon, allez, je compte pas de points parce que vous êtes trop nombreux.
Et tu comptes pas du tout les points en fait.
Si. Monsieur Fall, 3 points.
Monsieur Fall a 18, moi j'ai moins 1 et vous avez tous 0.
Puerto Rico.
Oui.
Ah bah là, oui, hein, donc voilà, Monsieur Fall, 4 points. Twilight Struggle.
Aucune idée, je crois pas, non.
Bah non, hein, voilà, encore un point.
Attends,
j'ai le rôle facile, là.
J'ai fait un nom avec ma petite voix.
Ah, t'as fait un nom.
C'est une belle leçon d'humilité pour la dernière de l'année.
Clément, c'est un gros jeu, c'est un trop gros jeu. Pour.
Risk.
Oui.
Ah, Patrick en première place, carrément, donc voilà. Un point. Hein. Bah non, mais c'est pour faire un point.
Merci, Erwan.
Les châteaux de Bourgogne.
Non. C'est un de mes jeux préférés d'il y a 2 ans. Ouais, 2 ans.
Tikal.
Oui. J'ai le rôle facile, hein,
c'est incroyable.
c'est un coup
Zombicide.
Monté.
Non.
Non.
Ah, c'est trop récent. Ça va peut-être se faire d'ailleurs. Hein, mais...
ouais, peut-être. Ouais.
Alors je ne sais pas trop comment le prononcer, mais M-Y-M-E-S.
Mirmes, non.
Non. Small World.
Oui.
Ah, bah allez, 2 points, hein, comme ça. Cyclades.
J'aurais tendance à dire non, mais je ne sais pas.
Ah oui, donc moins un. Hein, moins un pour Monsieur Fall qui perd un point. Brass.
Non.
Eclipse.
Non.
Ah bah moins un, donc si, ah oui.
Eclipse a été fait.
Oui, Eclipse, ça a été fait. Trajan.
Non.
Non, Agricola.
Oui.
Mais de quoi on parle, là?
Ah ben, c'est les questions jeux de plateau, là. Hein. Ah, vous n'avez pas essayé.
On va aller boire un café, on
Et enfin, on va finir le Havre.
Oui.
Et Prince de Florence.
Non.
Voilà. Je pense que nous pouvons applaudir.
C'était ma fête.
Bravo.
Alors, trouver, deuxième question qui est moins jeu de plateau.
Moins l'arnaque.
Trouver le nom exact de la machine dont il s'agit dans le texte suivant. Hein? Si vos parents vous proposent machin pour Noël, répondez par un gentil non merci.
Une 32 bits. Une console 32 bits.
Et oui,
ouais, la pub, c'était pour la pub pour la
Ultra 64.
Ultra 64, ça s'appelait pas encore Nintendo 64.
Exactement. Ah,
ouais. Voilà, le 25 décembre, c'est un cadeau ressemble à une 32 bits.
C'est double page, elles étaient super.
Ne riez pas, c'est peut-être le vôtre. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, oublie la 32 bits que je t'ai commandée, etc., etc. Donc les moments manquants étaient une 32 bits. Donc tu as bien répondu, bravo. Et trouver la machine dont il s'agit dans le texte suivant. Yo, Père Noël, tu ne suis peut-être pas les actus des gamers, mais pour ton info, la nouvelle tuerie de machin n'arrive que début, hein, quand ça. C'est alors pour Noël, c'est mort, ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Et ça va faire mal. Du coup, pas la peine de débarquer en décembre cette année. Passe
la PlayStation
plutôt...
Vita.
Ouais, c'est pour une PlayStation portable.
Ou la PSP Go.
PS Vita, et oui, il s'agit de la PlayStation Vita le 22 février 2012. Cette lettre est en effet une pub Sony parue dans les magazines en fin d'année 2011. Donc les mots manquants étaient PlayStation 2012, PS Vita et 2012.
Les pires campagnes de Sony d'ailleurs.
On conclura donc que ce type de campagne publicitaire est à proscrire si vous voulez vendre des consoles de jeux vidéo. Et enfin, Jérémy Israël, parce que c'est une minute culturelle, hein, c'est la dernière de 2013. Donc c'est un crossover jeux vidéo, jeux de société. Donc vous pouvez partir. Hein. c'est un chercher l'erreur. C'est un chercher l'erreur dans les phrases suivantes. Donc il y a une erreur où s'est-elle glissée. Donc Halo Interactive Strategy Games, sorti en 2008, propose un plateau modulaire et peut se jouer jusqu'à 10 personnes. La boîte contenait aussi une démo exclusive d'Halo Wars pour Xbox 360, jeu qui sortira l'année suivante.
Il faut dire le titre du jeu ou...
Non,
l'erreur dans la phrase.
Il faut dire l'erreur dans la phrase.
D'accord. Oh, 10 joueurs. Sinon c'est Halo Wars.
La démo d'Halo Wars, je crois que ça y était.
Eh bien, pas du tout. Bravo.
Moins un. Voilà, moi, je recule vraiment de la table. Alors.
C'était l'erreur.
C'était l'erreur.
c'est exceptionnel.
La PS Vita.
L'Ultra 64.
Il s'agissait d'un DVD avec plusieurs bonus, dont les musiques d'ambiance provenant des bandes originales de la série. Voilà. Uncharted Thieves and Deception, Fortune Thieves and Deception est un jeu majoritairement composé de cartes. Les joueurs incarnent chacun un chasseur de trésors de la trempe de Nathan Drake et s'affrontent pour des parties d'environ 45 minutes. Ok.
Les parties sont plus courtes parce que c'est un jeu PS Vita.
En fait, c'est 47.
Non, en fait, il s'agissait de Uncharted The Board Game et non pas de...
Ah oui, parce que l'autre, c'est le jeu PS Vita.
Je suis déjà parti.
Ouais. Et enfin, alors, parce qu'elle commence à durer vachement trop longtemps, cette minute culturelle, donc je ne m'en sers plus. Une version Metal Gear Solid du Monopoly est sortie en 2011.
Faux risque.
Mais voilà. Bibo Mantis qui se
lève. C'est Metal Gear, là, j'étais obligé.
Donc on va terminer cette minute culturelle sur ce...
Restons bons amis, arrêtons là-dessus.
Donc je pense qu'au classement, je regarde, oui, c'est Monsieur Fall qui gagne sans conteste cette minute culturelle avec un score catastrophique de Erwan. Je ne sais pas,
Je sais pas ce qui m'est arrivé. Tu t'es endormi.
Donc on va conclure cette année sur vos classements, vos différents classements, parce qu'il faut toujours conclure une année de jeux vidéo sur un classement de jeux vidéo. Donc je vous ai demandé de faire un top 5. Vous pouvez faire votre top des jeux hein, aussi, Monsieur Fall, bien sûr, si vous en avez.
J'en ai pas, mais j'en ai pas.
Arrivé à votre tour. Donc je vais commencer par toi, Kalash. Donc ton classement de l'année, quel est-il?
En fait, moi j'avais pas bien compris la consigne, alors du coup c'est pas exactement ça que j'ai fait. Il y a 7 jeux.
J'ai dit qu'il fallait faire tout et n'importe quoi, vous avez le droit.
Voilà, alors le jeu que j'ai le plus soudé en 2013, enfin, auquel j'ai le plus joué, pardon, c'est Don't Starve. Oui, bravo.
Ouais. Bravo. Non mais quand même. Ah oui, en temps de jeu, c'est le record.
Ouais. Ah, bon, ouais. Après j'ai une bonne centaine.
Ah ouais, quand même.
Alors, en fait, je voulais absolument mettre Dishonored et je me suis rendu compte qu'il était sorti en 2012.
Donc c'est
le prix du jeu de 2012 que j'ai le plus kiffé en 2013. Dishonored.
Ouais. Bravo, Dishonored.
Non, parce que voilà, il faut être malin pour mettre les jeux dont on a envie de parler.
Ouais, mais c'est Game of the Year Edition. C'était sorti en 2013, je pense.
Alors, le jeu qui m'a rendu le plus intelligente en 2013, et comme il est sorti plutôt en fin d'année, l'année a été difficile. Tetrobot,
tu en as pas parlé ici,
J'en ai pas parlé ici. Non.
Ah, donc tu en reparleras en janvier, en fait.
Si tu veux, volontiers, c'est vachement bien. J'adore.
C'est français en plus. C'est Spring Submarine,
oui,
qui avait
ça.
Fait.
Qui sont à Montpellier. Blocks and Matters.
Voilà.
Blocks and Matters.
Mais en fait, ils sont en Suède, mais personne ne le sait, à part nous.
Ah bon.
Ensuite, le jeu que j'aurais bien aimé retourner dans tous les sens si seulement j'étais plus intelligente, mais je suis comme je suis. Alors j'ai jeté l'éponge au bout de 17 heures sans avoir jamais battu le boss. Faster than light.
Ah mais le boss, moi j'ai...
Ah oui, mais ouais.
J'imagine, je connais personne qui a réussi à finir.
Bah écoute, Guy Moquette chez nous, il l'a terminé mais en 3 heures quoi. Pff, tranquille.
Ok, tranquille.
Voilà. Ah, mais c'est du bol. Voilà. Non, c'est Agbou, du bol. Non, c'est du bol.
Agbou, il a mis du temps. Mais après, il y a le FPS que j'aurais aimé si c'était pas un FPS. C'est BioShock Infinite.
C'est pas mal.
Et puis après, les jeux qui m'ont redonné foi dans le genre humain, il y en a plein. Il y a Kentucky Route Zero, il y a Papers, Please, Cookie Clicker 2, Candy Box, Nintendo Underground, bref, voilà.
Voilà.
Je m'arrête.
Il y a des jeux qui t'ont redonné foi dans le genre humain. Et après, on reviendra aux jeux, les pires jeux de l'année. Je crois que t'en as aussi, hein, quand même, hein, les plus grosses déceptions. Pipo, on t'écoute. Alors, parce que je sais que tu as un classement.
Alors, j'ai un classement tout court et j'ai aussi deux, trois petites cases bonus.
Il a 24 pages de jeux écrits sur son carnet.
C'est possible. En 5, en fait, je vais tout de suite me débarrasser des énormes blockbusters, donc GTA V et The Last of Us. C'était vachement bien, mais voilà, c'est pas là-dessus que j'ai envie de me concentrer forcément. En 4, Risk of Rain, dont j'étais déjà venu parler, oui. Hein, qui était un roguelike d'action qui est fantastique, et Rogue Legacy, dont on a peu parlé, mais qui est aussi un excellent roguelike, très 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 malin, qui sortira aussi sur Vita.
Mm-hmm. Ah, il sort aussi sur Vita ?
Il va sortir, ouais, voilà, voilà.
Je le note.
Moi, j'ai arrêté de jouer sur PC en attendant la version Vita. Ensuite, The Stanley Parable. Bien évidemment, parce que il met, voilà, on en parlait, mais il met une gifle à tous les jeux qui se veulent de la grande école de la narration. Alors on va se battre tout à l'heure, mais je pense à Beyond et à Gone Home. Mais je trouve que voilà, Stanley Parable, en quelques phrases, arrive à juste foutre la honte à tous ces jeux-là. ensuite, Super Mario 3D World. Tout bêtement parce que c'est le jeu de l'amour. Voilà, c'est Mario en chat, la musique est chouette, c'est tout est coloré, et les niveaux sont tous plus intelligents les uns que les autres, et c'est juste agréable. Et j'ai retrouvé cette espèce de petit bonheur naïf de Mario 64, alors voilà, plein de câlins pour lui. Et enfin, en première place, ex aequo, deux jeux sur deux plateformes qu'on n'aurait pas forcément attendu là. La première, c'est sur mobile, puisque c'est Space Team, qui est un jeu en coop sur iOS et Android, où en gros, il y a quatre personnages qui sont... dans un vaisseau spatial en fait, et ils doivent se hurler des ordres. Ils ont tous un tableau d'ordre différent, ils doivent se hurler des ordres.
C'est
les uns aux autres.
4 joueurs,
ça joue jusqu'à 8 d'ailleurs en fait. Il y a un mode spécial, c'est de la coop à 2, 3, 4 jusqu'à 8 joueurs.
C'est
des ordres débiles,
shake
machin, astéroïde et tout machin, et les gens se mettent à hurler. C'est fantastique, c'est gratuit, et en plus c'est cross-platform si on est sur le même wifi.
Ah oui,
donc choper le Space Team tout collé, ça coûte vraiment rien, donc allez-y. Et enfin, mon premier jeu, mon jeu de l'année, qui sera aussi mon jeu de l'année 2014, c'est un jeu Ouya, qui s'appelle Towerfall, qui est un jeu de deathmatch d'archer, qui est fantastique, qui est peut-être le meilleur jeu multi
de l'histoire des jeux multi.
De la Ouya.
Peut-être pas, mais non, déjà de la Ouya, clairement. Et en fait, il sort en début d'année prochaine sur PS4 et PC, donc ça sera encore mon jeu de l'année 2014.
D'accord.
Enfin, pour les plus petites catégories, très vite.
Donc
les catégories secondaires, ouais. Très très vite. Le jeu de la génération auquel je continue de jouer alors que ça ne sert plus à rien, c'est Super Street Fighter 4. Bien évidemment, le jeu le plus inconséquent et inoffensif de l'année, c'est Fuse, qui est vraiment juste rien. Voilà, c'est du vide. J'ai pris l'habitude de dire que c'est le pain azime du jeu vidéo. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de couleur et ça fait des miettes qui font chier. Les jeux auxquels j'ai honte de ne pas avoir joué, Papers, Please et Brothers, qui paraît-il sont vraiment très très bien.
Ah oui.
Et les jeux des Nuits Blanches, Dota 2, Hearthstone et Cookie Clicker.
Mais Cookie Clicker, mais vous êtes des grands malades.
C'est très très bien. Et les déceptions, Killer is Dead et la Next Gen. Voilà.
Ah, oula, allez hop. On vire la Next Gen. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé des.
J'ai déjà piqué un peu de temps, mais enfin, et puis je vais commencer à devenir insultant si on parle de la Next Gen. Donc.
Allez, Clément.
Oui, alors moi, j'ai. Bizarrement, ce qui m'a fait. Quand j'ai fait mon petit top 2013. C'est globalement des jeux PC pour ma part. J'ai un peu joué sur console, mais moins, en fait, cette année. Et ce qui est marrant, c'est que mes deux premiers, en fait, c'est des jeux de 2012 qui ont eu un DLC ou un add-on en 2013. C'est-à-dire que c'est des jeux qui étaient, pour moi, géniaux en 2012. J'ai passé des heures, et c'était des beaux add-ons. Donc, pour moi, c'était une version, voilà, une version ultime de jeu. Donc, d'abord, il y a l'add-on de Endless Space Disharmony. Donc c'est un 4X spatial fait par des Français, mais ça on s'en fout, ils sont très bons, très doués, etc. C'est un jeu, moi voilà, c'est le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures, je crois, ces dernières années. Oui, mais voilà. Mais c'était non, voilà, c'est un. Tu veux la refaire dans le micro?
C'est bon.
Et le deuxième, c'est XCOM Enemy Within, dont j'ai parlé récemment. Ouais. Et c'est un jeu qui pour moi est un excellent jeu de stratégie tactique temps réel. Et tour par tour plutôt. Et donc voilà, cet add-on-là, moi je l'ai beaucoup aimé. Après, dans les Stanley Parable aussi, clairement. Space Team aussi, je l'avais oublié, mais c'est vrai que c'était vraiment une. Ça se rapproche un peu du jeu de plateau en fait. Ça se rapproche vraiment du jeu de plateau.
C'est le jeu coop ultime en fait.
Voilà. Et enfin, dans le jeu de. Bon, j'ai un long top sur Sens Critique hein, pour ceux qui veulent voir, mais sinon, il y a l'aspect drogue quand même, c'est Hearthstone, le jeu de cartes de Blizzard. Là récemment on a pu en faire une news, mais Blizzard, les serveurs de Blizzard ont été coupés pendant 12, 15, 16 heures, enfin, et c'est là où on s'est tous rendu compte en fait de l'addiction, parce que Hearthstone est un jeu gratuit, un jeu de cartes à la magie auquel on joue voilà 10-15 minutes. Bah là moi ça m'avait bien manqué en fait, ma petite partie, enfin je dis ma petite partie
oui,
mais allez, on se comprend,
juste une partie, voilà, allez, juste une partie, juste 10 petites heures. Patrick.
Oui, alors c'est pas évident à top 5 hein, parce que moi j'avais griffé pas mal de titres comme ça sur ma page. Donc, moi je vais citer le nombre de, les jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps depuis que je les ai. Donc c'est voilà, c'est comme ça que je vais les identifier, donc c'est assez simple. Moi en 5e position, je mets Rayman Legends qui je joue régulièrement depuis qu'il est sorti. Une fois par semaine, je lance, je fais quelques niveaux, j'avance. Il est très touffu ce jeu, enfin je trouve qu'il est il tient vraiment sur la durée. En quatrième, je mettais Tomb Raider, que moi je trouve vraiment un reboot intéressant avec une expérience de jeu vraiment, vraiment marquante. En troisième position, moi je mettais c'est un peu en ex-aigo, c'est les deux jeux Zelda. Le 3DS qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais que j'ai du mal à décrocher. Et le remake du Wind Waker sur Wii U, que j'ai trouvé somptueux, qui vraiment était une relecture, enfin une invitation à revivre ce jeu, qui un souffle épique. Enfin, je trouve qu'on a eu une belle année du côté Zelda. Voilà, c'était une belle deux très beaux jeux cette année. En deuxième position, comme Pipo, le Mario World 3D, je trouve que c'est la perfection du gameplay. Enfin, c'est on en a parlé ici il y a pas très longtemps, mais je trouve que c'est un jeu qui est tellement bien huilé en termes de gameplay, il y a un plaisir de jeu immédiat une fois qu'on a la manette en main. Donc vraiment, il faut vraiment l'essayer. Et en premier, je mets Assassin's Creed 4, qui moi je trouve remplit les promesses qu'il donnait. Et j'ai passé un nombre faramineux d'heures parce que, alors j'ai un problème avec les jeux en monde ouvert, hein, c'est que je passe un temps fou à faire tout ce qui est side quest, tout ce qui est mission secondaire. Et j'ai pas encore fini d'ailleurs. Si on devait faire une liste des choses à finir, il faut que je finisse Assassin's Creed. Mais j'ai passé un nombre incalculable d'heures à me balader, juste à explorer le monde, à découvrir des animaux. J'ai vraiment trippé sur l'univers. Et je trouve que voilà, il y avait la promesse qui était donnée et remplie. Côté indé, évidemment, on en a parlé ici. Il y a pas mal de jeux. Moi, celui qui m'a marqué, c'est Papers, Please, que j'ai trouvé.
Je suis désolé pour ceux qui m'entendent. Je suis en train de cracher mes poumons, comme si ça servait à quelque chose d'avoir arrêté de fumer. Il y a 9 mois. Enfin bon, bref. Oui.
Je disais Papers, Please parce que tu disais tout à l'heure qu'on retrouvait quelque part la fraîcheur des premiers jeux vidéo, enfin des jeux des années 80. Je trouve que celui-là, on est vraiment un exemple. C'est un jeu barré dans sa conception, dans son scénario, qui est très profond. Et je trouve que, il met le joueur dans une position assez assez désagréable. Et je trouve que c'est là où vraiment il se démarque de tout ce qu'on a pu connaître dans le domaine. Et puis moi, un coup de cœur quand même pour Far Cry Blood Dragon, qui était quand même mon coup de cœur de cette année perso.
Il y avait ton nom sur ce jeu.
Et ben voilà, c'est vraiment un titre perso. Pareil, j'ai joué un nombre incalculable d'heures, j'avais libéré tous les trucs. Enfin, gros coup de cœur pour l'univers.
Moi, je reste persuadé que c'est un jeu que Ubisoft a fait pour toi.
Je les remercie.
C'est ma théorie. Je pense qu'il y a des gens qui écoutent Silence on joue à Ubisoft et ils se sont dit « Oh !» J'ai une idée, les gars.
D'ailleurs, c'est un de ces jeux qui était marrant au niveau du format, qui était vendu en digital et qui était, je trouve qu'il y avait une durée de vie, en ce qui me concerne moi, parce que je l'ai vraiment retourné en tous les sens. Voilà, Blood Dragon, j'espère qu'on aura une suite.
Erwan.
Alors moi en 5, j'ai mis Super Mario 3D World, sur lequel on va donc.
Il est omniprésent dans nos top, quand même, Mario.
Il n'y a
pas un seul Call of Duty, très bien.
Ouais, je suis ravi. Il n'y a pas eu beaucoup de GTA d'ailleurs non plus depuis tout à l'heure. Mais... En 4, j'ai mis Proteus, dont on parlait tout à l'heure. Bah oui, tu débarques sur une île avec des graphismes
plus,
colorés,
fini,
un peu Atari 2006. Ça prend une heure, quoi, à peu
ça
près.
Ça m'a amusé, j'ai fini, mais ouais, d'accord.
Mais moi, ça me fascine, je le relance de temps en temps. Là, il est sorti sur PC et Mac en février, mars. Là, il est ressorti sur Vita et PS3 cet automne, il y a un mois ou deux. Et je l'ai refait, il y a des fonctions en plus. En plus, on peut faire facilement des screenshots avec la Vita. Enfin, j'aime bien.
D'accord.
C'est bien. Puis t'as des petites bêtes qui sautent, tu sais pas ce qui se passe. Il y a le ciel qui change de couleur.
Oui.
Puis une fois, je suis parti nager, je me suis perdu. Enfin, c'était.
Non, mais c'est intéressant.
Oui, c'est intéressant.
Ouais. Non, non, mais oui, d'accord.
Et puis d'ailleurs, ce qui me plaît beaucoup, c'est que...
Et en plus,
je
veux pas en dire du mal. On peut pas dire du mal de Proteus, mais de là à en dire du bien, c'est...
En fait, on sait pas quelle influence on a sur ce qui se passe, et je trouve ça bien. En
d'accord.
Fait. Voilà.
Ouais.
Ensuite, en 3, j'ai mis Papers, Please. Donc ça, on en a parlé déjà. En 2, j'ai mis The Last of Us, qui est quand même, pour moi, vraiment dans les blockbusters, c'est ce qui m'a le plus marqué de très loin sur la narration, etc. La manière de... Si j'avais fait un top 10, il y aurait eu Beyond, que j'aime bien, qui aurait été dedans, mais je trouve que The Last of Us, même sur la narration et en ayant un gameplay plus classique, va quand même plus loin que Beyond. Donc c'est mon numéro 2. Et en numéro 1, j'ai mis Gone Home, dont nous avons un autre fan autour de la table. Donc Gone Home, en deux mots pour revenir dessus, c'est un jeu d'une petite équipe, ils étaient 3 ou 4 à Portland, dont Steve Gaynor, qui est le principal développeur, qui est quelqu'un qui a travaillé chez 2K avant, sur un BioShock. Et le jeu, pour moi, c'est un peu une épure de BioShock, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu le même principe de narration environnementale entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des lieux qui nous racontent des histoires, c'est des mots, des textes écrits, etc. Sauf que là, au lieu que ce soit de l'ASF ou de l'anticipation, etc., c'est une histoire intime, familiale et d'une jeune fille qui rentre chez elle, la maison est vide, elle découvre ce qui s'est passé, ce que ses parents ont vécu, ce que sa sœur qui vit une histoire d'amour. Ça se passe dans les années 90, donc ça c'est très bien. Je sais pas si Patrick l'a fait, mais ça aurait pu aussi.
Je suis plus 80, moi, mais bon, on tolère les années 90, mais bon, on tolère.
Et est-ce qu'il a été traduit en français depuis
Non.
C'est quand même un souci. The Stanley Parable est traduit en français.
C'est pas le plus gros souci.
Ouais. Nous avons un détracteur de Gone Home à ma droite. Mais bon, c'est pas le moment. Voilà.
J'ai d'autres petites catégories.
Oui,
j'ai deux ou trois petits coups de cœur indés que j'ai pas pu mettre dans les 5. Il y a Luxuria Superbia, qui est un jeu qui joue sur iPad, iPhone, Android, PC, Mac, enfin Ouya même, pour Pipo, comme ça si tu veux, sur ta Ouya. C'est un jeu de Tale of Tales, studio belge, ceux qui avaient fait entre autres The Graveyard, The Path, Bientôt l'été, etc. Et c'est un jeu en fait où on fait, avec les doigts, on fait l'amour à sa tablette. Voilà.
D'accord.
Et elle est contente, et voilà, et donc c'est...
Okay.
Et puis il y a des petits oiseaux, il y a des fleurs, des hirondelles qui arrivent, et puis elle nous dit oh oui merci, et c'est formidable. Voilà, donc je vous le recommande. Donc c'est sur toutes les machines, c'est pas cher, et donc Luxuria super bien. Et je voulais aussi parler de Depression Quest de Zoe Quinn, dont j'avais déjà parlé, qui est un jeu, une fiction interactive.
Donc on a quelque peu entendu parler ces derniers jours.
Ça vient d'être greenlighté sur Steam, et ça s'est assez mal passé parce qu'il y a eu des réactions très très violentes contre son jeu, contre elle. Elle a été obligée de changer de numéro de téléphone parce qu'elle était harcelée. Tout est bien qui finit bien parce qu'on en a tellement parlé qu'il y a eu un gros mouvement de soutien et du coup son jeu va arriver sur Steam et il va être gratuit sur Steam.
D'accord.
Depression Quest.
Donc
voilà, c'était mes petits coups de cœur. Ensuite, deux ou trois dernières choses.
Vas-y.
Cette année, j'ai encore retrouvé des jeux indés que j'avais ratés l'année dernière, dont Hotline Miami, Thomas Was Alone, Dear Esther. Je les avais ratés et je pense que l'année prochaine, du coup, je vais rattraper Stanley Parable et Brothers Tale of Two Sons que j'ai raté cette année. Donc je prévois qu'ils seront. Que ça fera partie de mes jeux préférés de l'année prochaine, mais que je pourrais pas mettre dans mon top parce qu'ils dateront de l'année d'avant.
D'accord, mais c'est bien. C'est très bien. Monsieur Fall, du côté des jeux de plateau, alors là, vous prenez tous vos notes et vous regardez les 5 meilleurs jeux de plateau de l'année, selon Monsieur Fall.
Alors, je n'ai pas préparé de top parce que je ne savais pas qu'il fallait faire un top. Alors, je réfléchis pendant que vous parliez les uns les autres. Je vais noter donc 5 jeux pour des raisons diverses et variées. Alors, Nauticus, forcément, puisque je vous ai dit tout le bien que j'en pensais il y a 5 minutes. Je vais vous reparler de Zombicide parce que c'est un jeu étonnant, puisque c'est un jeu coopératif. Je déteste les jeux coopératifs. Mais c'est quand même un jeu où je prends plaisir à jouer avec mes camarades. J'ai joué là, il y avait les Tritractors la semaine dernière avec 3 potes, on a joué et on s'est bien marré. Voilà, c'est rigolo de latter du zombie, il y a du hasard, on retourne des cartes, on taille à la tronçonneuse. C'est peut-être le seul moment où je peux accepter le coopératif là et le jeu de rôle. Après, pour le reste, je suis assez perso, donc voilà, Zombicide. Ensuite, j'ai eu un petit coup de cœur pour un jeu qui s'appelle Les Bâtisseurs. Alors pourquoi j'ai bien aimé Les Bâtisseurs? Parce que pour moi, c'est un jeu qui ouvre l'univers du jeu de société au public qui n'en a pas l'habitude, c'est-à-dire ça propose une mécanique ultra simple, un assemblage de cartes vraiment vraiment très très simple, mais quand même on peut se creuser la tête. C'est-à-dire c'est une bonne approche pour débuter dans le monde du jeu de société sans avoir un jeu débile avec rien à l'intérieur. Surtout que l'auteur est assez hallucinant, un être vraiment sympathique qui prévoit des extensions qui vont arriver pour enrichir le jeu. Donc c'est un bon moyen de débuter dans le monde du jeu de société avec un truc simple pour évoluer vers du plus mieux après. J'ai un autre jeu qui m'est venu à l'esprit. J'ai dû vous en parler dans une chronique. C'est Quantum. J'en reparle avec plaisir parce que c'est en fait un designer de jeux vidéo qui s'est lancé là-dedans, qui est un designer de jeux vidéo new-yorkais et qui a fait son premier jeu de plateau et qui est assez étonnant parce que il n'a rien pour me plaire. C'est des dés et c'est des combats dans l'espace. On se fout sur la gueule à coups de laser. C'est absolument pas pour moi, en tout cas pas sur un jeu de plateau. Et bah ça marche. Ce type a réussi à faire un truc hallucinant juste avec des dés, quoi. Vous avez des dés à six faces, hein. Je vous parle pas de dés avec des dessins dessus. C'est un 1, un 2, un 3, un 6. C'est votre vaisseau. Le 6, c'est le nom du vaisseau, quoi. Il fait des trucs. Et moi, ça marche. Et ça marche à deux. Je n'aime pas les jeux à deux parce que j'ai trop joué à Magic à deux pendant des années. Donc, je préfère jouer avec plein de gens, hein. Ça, c'est plus rigolo. Ça permet d'échanger, de papoter. Et là, j'ai joué à deux à ce jeu et ça a marché. J'ai joué à quatre et ça a marché parce qu'il n'y a pas le même plaisir. À 4, il y a tout ce que j'aime dans un jeu, c'est-à-dire qu'on pousse les autres à taper sur un autre pour éviter qu'on se fasse taper soi-même. Et ça, j'aime assez ce côté frivole, tu vois. Regarde, il est en tête, si tu lui poutes pas sa gueule, c'est lui qui va gagner. Et là, bam, voilà. Et il y a un tout petit jeu que j'ai découvert là, parce qu'il est arrivé en français récemment, qui a un an ou deux, il est sorti aux États-Unis il y a un an ou deux, qui s'appelle Quarriors. Je vais peut-être vous en faire une chronique pour l'année prochaine. C'est très amusant. Il y a ce qu'on appelle les deck building. Ce sont des jeux où on fabrique son paquet de cartes. Magic est un deck building, sauf qu'on fabrique son jeu avant la partie. Il y a des jeux de deck building comme Dominion où on fabrique son jeu pendant la partie. On va piocher des cartes et on va faire un paquet. Et là, il y a un mec, il a inventé le dice building. C'est-à-dire qu'on a un sac noir et on va fabriquer un sac avec des dés à l'intérieur. On part avec 10 dés au départ. Alors ces dés, ils ont des pouvoirs, ils procurent de l'énergie. Et puis il y a des créatures qu'on va invoquer avec ces dés. Donc vous piochez dans votre sac 6 dés. Ouais, c'est 6 au départ, vous les jetez, et en fonction des phases qui sont appelées, vous allez avoir de l'énergie ou des monstres à faire monter dans une zone de combat, et avec cette énergie, vous allez acheter d'autres monstres un peu plus sophistiqués, qui sont représentés par des cartes. Alors, il y a des tas de cartes. Le jeu est sorti il y a un an ou deux aux États-Unis, il y a des tas d'extensions, hein, des tonnes de cartes. Et donc, vous avez des sorts, des bestioles, et c'est tout couillon, mais on prend un plaisir malin à jeter tous ces dés. Pour avoir des, alors on pèse que les dés forcément, elles ont des forces. Il y a la créature sur une face qui est très très forte. Alors on pèse parce qu'elle tombe pas. On hurle contre l'autre parce qu'il tire toujours forcément la créature qu'il faut au bon moment. Et donc ce qui est rigolo, c'est comme à Magic, on doit taper sur les créatures adverses. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on tape sur tout le monde en même temps.
Ah.
On élimine toutes les créatures des autres. Et le but du jeu, c'est d'arriver à son tour avec des créatures dans sa zone de combat. On va marquer des points et la partie s'arrêtera quand on aura.
Comment
Quarriors. Ça coûte un peu cher parce que c'est des dés. Il y en a beaucoup à l'intérieur. C'est des dés spéciaux à chaque fois. Mais alors la première boîte de base vient d'arriver en France. Elle est un peu chère, hein, 50€ je dirais à peu près. Et les extensions vont arriver si le jeu a du succès. Mais je ne doute pas qu'il ait du succès parce que c'est simple, c'est efficace, et même auprès de moi ça a marché. Donc c'est vous dire si le jeu est agréable. Voilà, c'était mes 5 jeux du moment.
Là, vous entendez la convocation à la réunion hebdomadaire de prévision, hein, de Libération.
Ça n'a rien à voir avec le top de M. Fall. Hein.
Non,
c'est
rien, pas à voir, rien à voir. Eh bien, moi, pour finir, mon top 5, hein, 5, mais qui va être un peu extensif. J'ai commencé par le premier. Hein, moi, c'est Persona 4 The Golden, hein, parce qu'il fallait quand même que quelqu'un
comme
en parle.
Comme par hasard.
Voilà. Sur PlayStation Vita, ce jeu me fascine.
Qui
me
est toujours
fascine.
En ta poche, non?
Tu l'as toujours sur toi, non? Non, je l'ai fini. J'attends Persona 5 maintenant. C'est vrai que on en parlait tout à l'heure, mais moi je suis pas fanboy des personnages et ce genre de choses. Donc c'est vrai que les crossovers, moi m'intéressent. Enfin ceux qui ont été annoncés hein, sur Persona m'intéressent pas tellement. J'attends plutôt Persona 5 et peut-être que je me mettrai à Persona 3 en attendant. En deuxième place, The Last of Us, un peu comme Erwan, et surtout parce que on parle de jeux indés, je suis fanat des expériences de gameplay, mais dans The Last of Us, pour moi, il y avait la promesse du jeu vidéo, quoi. Il y a la promesse du jeu vidéo. Quand on a commencé le jeu vidéo, on avait envie de jouer à ça, et le jeu vidéo a évolué et pour arriver à ça. Et The Last of Us, pour moi, c'est une promesse rendue, qui est accessible maintenant. Donc je pouvais pas le mettre ailleurs. En 3, The Stanley Parable, je ne vais pas répéter ce qu'on a déjà dit. En 4, Tomb Raider. Je sais pas, peut-être que là pour le coup c'est le plaisir de retrouver Lara Croft parce que j'avais pas kiffé un Tomb Raider pratiquement autant depuis le premier, et le premier avait été une très grande expérience à l'époque. Et ensuite j'ai mis dans une sorte de Gloobie Boulga de 5e place, on va mettre GTA 5, Assassin's Creed 4 et rien à voir, Kentucky Route 0 et Papers, Please. Voilà, c'est un grand mélange de 5e place ex aequo, mais de jeux qu'il fallait citer. Et dans les catégories, je vais aller très très vite, la
pire que la déception de l'année, c'est le truc le scandale de l'année, c'est SimCity, qu'ils ont tué SimCity, donc je leur en voudrais très très longtemps. Les jeux auxquels je n'ai pas joué, je sais que c'est mal, c'est Saints Row 3, Zelda Link Between Worlds et Rogue Legacy.
Saints Row 4,
oui, voilà.
Ou le 3 aussi, peut-être tu l'as pas fait. Hein.
Et Rogue Legacy, mais vu qu'il va sortir en Vita, j'en parlerai à la fin de l'année prochaine. Et enfin, le moment de gameplay, ce moment qui dure 10 secondes et qui marque un jeu, il était dans Brother, Tale of Two Sons, c'était à la fin, à la toute fin de Brother, et il y a un moment de gameplay, non, je ne dirai pas lequel, mais voilà, qui fait que ce jeu, qui fait pour moi que ce jeu marque, on a explosé, plus personne ne peut rien, Pipo, oui.
Très, 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 très vite, parce que personne ne l'a cité, alors que je pensais qu'au moins quelqu'un le ferait. Un petit bisou à Fire Emblem Awakening sur 3DS, qui est quand même très, très bien, et qu'on
a pas cité.
C'est
très, très bien.
Voilà, c'est vraiment, c'est excellent.
Voilà. Donc nous avons un prix spécial pour Fire Emblem The Awakening.
Même si les personnages n'ont pas de pieds, ce qui est quand même bizarre.
En tout cas, merci à tous d'être venus, merci à tous de nous écouter, de nous avoir écoutés pendant l'année 2013, et on se retrouve dans l'année 2014. Mais avant de se retrouver en 2014, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, mais à laquelle vous allez répondre très très vite. Pipo Mantis, tu vas passer en dernier parce que je sens que tu n'as rien préparé. Clément, et quand tu ne joues pas, tu fais quoi?
Je suis allé à Pompidou voir l'exposition sur le... Pas l'absurde, c'est sur l'absurde. Enfin, en tout cas, c'était... particulier, voilà. Et c'était, j'étais content d'avoir mon abonnement annuel parce que je sais pas si j'aurais aimé payer pour le faire, mais au final, je suis pas mécontent de l'avoir fait.
J'ai pas compris du tout si on doit y aller.
Moyen.
Patrick.
Alors, moi, c'est une habitude. Chaque année, je me repasse un de mes films cultes pour voir s'il me fait toujours aussi peur. Ça s'appelle Rendez-vous avec la peur, un film de Jacques Tourneur de 57. Et il me fait toujours aussi peur. Je l'ai revu cette semaine et il me fout toujours la trouille. Donc, Dana Andrews en acteur principal, un film fabuleux à voir absolument. Voilà, un film culte.
Formidable. Voilà. Erwan.
Alors moi, ça a à voir avec le jeu vidéo, parce que je suis allé à la visite presse d'une exposition sur le jeu vidéo qui ouvre à Rennes ce week-end, qui s'appelle Playtime. Qui est une expo très intéressante, qui est très complémentaire de celle qu'il y a en ce moment à la Cité des Sciences, qui n'est pas du tout dans l'histoire rétro gaming, game story. Enfin, c'est encore une autre approche, et c'est une expo qui était d'abord en Suisse, il y a un an ou deux, qui a tourné en Russie, qui donc arrive à Rennes, là, ça ouvre là pour les vacances de Noël, et c'est jusqu'à la mi-février, donc je recommande aux gens qui sont à Rennes, ou pas trop loin, ou qui ont l'occasion d'y aller.
Monsieur Fall, quand vous ne jouez pas, vous faites quoi?
Alors en ce moment, je me suis remis au sport en fait. Comme j'ai bientôt 50 ans et que je compte bien pouvoir jouer jusqu'à l'âge de 100 ans.
Bah oui.
Oui, je prends soin de mon corps, donc j'ai acheté un vélo et j'ai pris une licence dans un club de vélo pour aller faire des courses à vélo. C'est dingue, non? Donc wow. Je pédale, je passe mon temps à
quel
pédaler.
Aventurier.
C'est fou, hein. C'est qui explique ce corps de rêve. Ouais. Donc je vous conseille à tous, si vous voulez jouer jusqu'à très longtemps et très vieux, jusqu'à plus de 100 ans, prenez soin de votre corps et allez faire du vélo ou du sport, hein, un sport d'endurance, c'est bon pour le cœur.
Kalash.
Bah moi j'ai pas les moyens de me payer un vélo, donc je me suis inscrite au semi-marathon de Paris, voilà. Donc je cours dans le froid.
Ah ouais, quand même. Ah non, mais après les courgettes, non mais c'est.
Après les courgettes et le jiu-jitsu brésilien. Mais en fait, en ce moment, je peux pas faire trop du jiu-jitsu parce que justement, je me suis un peu fait abîmer l'épaule, donc voilà, je suis obligée de courir.
D'accord. Et Pipo Mantis, quand même.
J'ai commencé Battlestar Galactica, c'est pas mal votre petit truc, dis donc. Et... quoi? Non mais c'est vrai en plus. C'est complètement vrai. Et j'ai vu un film qui s'appelle John Dies at the End par le réalisateur de Booba Otep, donc Don Coscarelli. C'est absolument idiot. C'est l'équivalent horreur film de genre de Emek Ele Oumakes, c'est-à-dire que il se passe un truc différent toutes les 30 secondes et rien ne fait sens. C'était extrêmement bizarre, mais je crois que c'était pas mal. Mais je suis pas sûr.
D'accord, un peu comme Clément en fait.
Voilà, exactement, je sais pas. Voilà.
Voilà, bah moi j'ai toujours pas récupéré internet chez moi, donc j'ai plus rien à disposition culturelle, c'est horrible, donc voilà.
Mais tu fais rien alors?
Bah j'appelle la hotline de mon futur opérateur pour.
Tu nous as dit que t'allais acheter une table, peut-être tu peux parler de ça.
Ouais, je vais acheter une table parce que voilà, j'ai avoir de la place pour avoir une table pour faire des jeux de plateau dans mon appartement de maintenant. Voilà.
C'est une bonne chose,
n'est-ce pas, Monsieur Fall? Bon bah merci à tous, on se retrouve en 2014, joyeux Noël, et puis on se dira bonne année début janvier, hein, voilà, c'est ça. Ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.